Salut tout le monde, bienvenue à cet autre podcast de Hockey sur demande, édition du 26 novembre 2023. Salut Steph, comment a été ton deuxième voyage?
Mieux que le premier, il faisait plus froid en fait. Il a fait plus froid le matin, c'était 5-6, puis ça remontait jusqu'à 22-23. Donc okay, c'était parfait. Ouais, c'était parfait, bonjour golf, on était bien.
Ouais, faisait plus, c'était plus jouable que le premier voyage où il faisait
plus facile. Ouais, c'est surtout les terrains qui étaient un petit peu plus faciles, mais on va les prendre. C'est des très, très beaux terrains pour vrai.
Cool, ben content que tu sois de retour encore une fois en
yes, un bon sir.
Il y a juste autre voyage qui s'en vient comme ça? Ou c'est...
Non, on devrait, le prochain, c'est mon meeting de gérant qui va se faire à San Diego cette année.
Oh, San Diego. Évidemment, c'est un peu comme les meetings de la LNH. Hein. C'est rare que ça se fait à Buffalo.
Ouais, mais nous, quand on discute, on change les choses pour vrai.
Oh! Oh, tabarouette.
Ça part bien la journée.
Salutations à Savanti, qui est encore une fois fidèle au poste dans le chat. Donc, ce soir, évidemment, on va revenir sur la semaine du CH. On va y aller avec nos coups de cœur et coups de pied. Je veux qu'on revienne sur les Oilers d'Edmonton parce que depuis le congédiement, il y a une petite amélioration, mais pas tant que ça. Je veux qu'on revienne aussi parce que la LNH a parlé de créer un autre tournoi en 2025, un tournoi international. Ils disent que ce n'est pas une Coupe du monde, c'est plus un tournoi international là, en attendant. Puis la Coupe du monde, je pense qu'ils vont mettre ça dans 2 ans après ou quelque chose du genre.
Ouais, et
je trouve que c'est fait un peu sur le coin d'une table, mais ça, je vais revenir là-dessus aussi un peu plus tard. Évidemment, on va y aller avec les sujets en rafale de Steph. On va également y aller avec le segment sur réception et on va closer ça avec les matchs à surveiller. Donc, Steph, es-tu prêt?
On est prêt, messieurs.
On commence ça. Fait que je vais te laisser tout d'abord y aller avec ton coup de cœur de la dernière semaine.
Mon coup de cœur, c'est pas un coup de cœur de la dernière semaine, mais c'est un coup de cœur de l'ensemble de la Ligue nationale présentement. Je vais reprendre ma salive, excuse-moi. Donc, moi, je vois la LNH sans complexe. Et moi, je suis surpris des matchs qu'on a présentement. Il y a beaucoup de surprises, je pense, au niveau des équipes, qu'il y en a qu'on ne pensait pas voir. Des déceptions, évidemment, comme à chaque année. Mais je pense que c'est assez incroyable ce qu'on a sous la dent présentement. Puis j'ai regardé une coupe de games aux États-Unis. On a quand même beaucoup de temps libre, donc ça paraissait. Puis tu sais, vu que j'étais à Vegas, j'étais 3 heures en retard encore. 3 heures en retard sur l'Est. Donc, les matchs commençaient autour de 2 heures l'après-midi puis jusqu'à 9-10 heures le soir. Donc, c'était impressionnant. C'est différent. Le hockey là-bas, c'est pas un nightlife comme ici au Québec où on écoute des games jusqu'à 11h, minuit, 1h. Là. Donc, c'est bien différent. Mais moi, je vais pour... Chaque match est différent, sans conclusion facile. Puis juste hier, on voit là avec... Vancouver contre les Sharks. On s'attendait tous que Vancouver détruise les Sharks. Les Sharks qui remportent 4-3 en temps réglementaire. Donc, c'est impressionnant à voir. Puis je trouve que de plus en plus, la Ligue nationale, on dirait que les mauvaises équipes veulent bien performer. Puis on voyait les Blackhawks, ils n'avaient pas de victoire. Les Sharks n'avaient pas de victoire. Il n'y a pas 2 semaines, on se parlait. Puis on se disait, les Sharks n'auront pas 20 victoires. Même vraiment pas 15 victoires. Ils sont déjà rendus à 5 ou à 4. Donc, tu sais, ça s'en vient, mais je trouve ça le fun de voir la part de la Ligue nationale. Il est comme sans complexe, puis tout le monde essaie de jouer bien. Tout le monde essaie de faire le mieux qu'il peut. C'est le fun à voir.
Pendant que les Sharks battent les Canucks 4-3, t'as les Sabres qui ont pété 7-2. 12-0 au but pour les Sabres dans toute la game. Aïe, aïe, ça c'est tout un match. Mon coup de cœur, je vais aller avec Samuel Laberge. Et non, je ne parle pas de Sam qu'on connaît... le partisan des Blue Jackets de Columbus, qui était aussi avec le blog à la coupe. Mais je parle évidemment de Samuel Laberge, le joueur de hockey, parce que
quel parcours.
Il a signé un contrat avec le club école des Devils de New Jersey. Et la raison pour laquelle c'est mon coup de cœur, c'est que c'est un joueur qui a joué pas plus tard qu'en 2019-2020 dans la Ligue nord-américaine de hockey. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui rient de cette ligue-là, qui disent que c'est une ligue de broche à foin et tout ça. Côté gestion, oui, des fois, ça paraît pas très, très bien, mais on parle beaucoup du calibre aussi, que c'est de la chenoute, puis ci, puis ça. C'est pas vrai, là, ça a changé. Il y a vraiment des bons joueurs de hockey. Puis il y a même des joueurs, tu sais, souvent, c'est des vétérans qui finissent leur carrière en Europe, qui viennent terminer ensuite leur carrière semi-professionnelle ici au Québec, dans la Ligue nord-américaine. Mais dans son cas, à lui, ça a été carrément un tremplin pour lui. Tu sais, oui, il avait joué dans la Ligue américaine aussi auparavant. Il a joué dans la ECHL. Là, si je ne me trompe pas, c'est un contrat LNH qui a signé avec les Devils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour un joueur qui, pas plus tard qu'il y a 2-3 ans, joue dans la Ligue nord-américaine. Donc, félicitations à Samuel. Seulement 26 ans, donc encore beaucoup de hockey devant lui là, à discuter. Donc, c'était mon petit coup de cœur. Là, et en même temps, pour dire que la Ligue nord-américaine, c'est pas un cimetière à joueurs que les gars vont tout le temps là juste pour finir leur carrière et qu'il n'y a pas de talent dans cette ligue-là. C'est faux. Non, c'est des bons jeunes joueurs aussi qui sont là, puis ça a même servi de tremplin pour Samuel.
Ouais, puis ce que c'est vrai dans la Ligue nord-américaine, c'est que c'est un produit quand même ici, puis on le voit avec différentes équipes, Québec-Ontario, en Nord-Vermont, mais c'est une ligue de plus en plus, je pense, qui fait son effet, puis ça va être un tremplin, je pense. Peut-être pas comme la ACHL l'a fait dans les dernières années, avant, je parle des dernières années, mais je pense que c'est un bon tremplin quand même pour un joueur qui veut pas arrêter de jouer au hockey compétitif dans un calibre qui est bon. Là, Tiffu pourrait le dire, là, c'est un calibre qui est quand même difficile à jouer. Là.
Ça va être son coup de cœur, c'est la fameuse passe de Kevin Korchinski à Connor Bedard. Ouais. Des jeunes joueurs des Blackhawks là, qui font très bien depuis le début de la saison. D'ailleurs, ouais. Ça s'est placé pour Bedard. Ben, ça s'est placé, il n'était pas mauvais, mais sa production était plus tranquille un petit peu. Puis là, il a déjà passé le cap des 10 buts, si je ne me trompe pas. Donc, ouais. Ça va très bien là, pour notre cher ami Connor. Comptes. Ton coup de pied maintenant, la dernière semaine.
Mon coup de pied, ça va être l'engagement et l'entourage Blue Jackets de Columbus. Beaucoup de rumeurs qui parlent de Dmitri Voronkov qui voudrait retourner en Russie. Pas personne dans son équipe, on dirait qu'il veut s'occuper de lui. Les Blue Jackets ont beau essayer, ça ne fonctionne pas. On a rajouté cette année 3 joueurs, ou même 4 joueurs qui parlent russe, dont Ivan Provorov, Kirill Marchenko, puis Yegov Shinatkov. Et on ne semble pas faire la paire. Et moi, je pense que ça pourrait être un gros départ du côté des Jackets. Est-ce que ça va pas bien? Donc, l'équipe va pas bien. Est-ce que c'est vraiment l'entourage qui fonctionne pas? Est-ce que Kekalainen fait vraiment la job présentement? Et de plus en plus qu'on regarde ça, il y a de plus en plus de rumeurs qui font que Kekalainen pourrait sa dernière saison, même pourrait se faire congé cette année. Donc, ça va pas super bien du côté des Jackets. Je sais qu'on s'achante peut-être un peu dessus. Mais cette nouvelle-là aujourd'hui m'a quand même déçu. C'est un joueur qu'on devrait mieux entourer du côté de l'organisation des Blue Jackets. Et j'espère qu'on va être capable de le faire d'ici la fin de la saison. Parce que sinon, on va perdre un bon produit. C'est un bon joueur du côté des Blue Jackets.
Mon coup de pied, puis c'est un peu ironique là, parce que évidemment, le Canadien a eu quand même une relativement belle semaine là, en Californie. Mais mon coup de pied, moi, c'est Martin Saint-Louis. Puis tu sais, c'est. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, je vais en parler un peu plus tantôt, parce qu'évidemment, on va parler des matchs, là, mais c'est surtout le match contre les Ducks d'Anaheim qui m'a fait un peu tilter, comme on dit en bon québécois. Parce que Jesse Ilonen, je ne sais pas ce qu'il a fait à cette équipe-là pour. Puis on en a parlé la semaine passée, mais je ne sais pas ce qu'il a fait à cette équipe-là pour avoir autant de schnout que ça depuis qu'il est arrivé à Montréal. Mais dans le match contre les Ducks, Ilonen fait un excellent jeu sur le but de Caden Gooley, fait une très belle passe. Parfaite pour Caden Gooley. Il joue très bien aussi dans l'ensemble du match. Puis en troisième période, on décide de le clouer au banc. Mais tu sais, c'est le quatrième trio complet qu'on cloue au banc. Ouais. C'est pas juste Ilonen en tant que tel, mais tu sais, je trouve ça plate un peu pour Ilonen parce que il fait quand même des beaux jeux puis il a inscrit le but gagnant aussi en tir de barrage contre les Sharks aussi. Tu vois que ce gars-là a du talent. Tu vois que ce gars-là peut produire offensivement. Puis tu sais, je parle pas d'un joueur qui va gagner le Maurice Richard ou le Art Ross ou peu importe. C'est pas un gars de 100 points. Là. C'est pas ça que je dis. Mais je pense qu'il mérite tellement mieux que de jouer sur un quatrième trio, sauter même des tours, a même pas d'avantage numérique quand que c'est à Laval, c'était un des joueurs qui était le meilleur dans cette facette de jeu-là avec le Rocket. C'est comme j'avais texté un de mes amis aussi par rapport à ça, ce que j'en discutais. Je dis, on dirait que c'est comme si Ken Hughes, Martin Saint-Louis ne regardait pas les matchs avec le Rocket derrière. Ben, pas dernièrement, mais dans les dernières années. Pour pas voir que Ilonen était bon en avantage numérique quand on a de la misère dans cette facette de jeu-là. Puis pendant ce temps-là, puis je sais qu'on tape encore sur le clou, mais c'est parce que ça revient tout le temps. Et Josh Anderson, aucune punition. Il a tout le temps son temps de jeu en avantage numérique, il a tout le temps son temps de jeu dans des trios qui font du sens. Puis pendant ce temps-là, ben, tu as déjà Ilonen qui fait beaucoup mieux que lui, crée beaucoup de choses plus que lui. Puis on dirait que c'est. Il n'y a rien à faire dans son cas. On dirait qu'il est condamné à être un joueur de quatrième trio. Puis je trouve ça plate parce que tu parlais des Blue Jackets de Columbus tantôt.
Ouais.
On ne s'est pas gêné pour asseoir Patrick Laine. On ne s'est pas gêné pour asseoir Johnny Gaudreau. Qu'est-ce que Martin Saint-Louis attend pour envoyer Josh Anderson dans les estrades? Je pense qu'on est rendu là. Puis tu sais, en même temps, je ne veux pas varger sur Josh Anderson parce que c'est pas parce qu'il n'essaye pas.
Non, vraiment pas.
Tu sais, nombre de chances qu'il a manqué, mais c'est juste que ça ne fonctionne pas. Fait qu'à un moment donné, si on est vraiment en rebuild, si on veut vraiment donner cette équipe-là aux jeunes, ben, t'en as un jeune qui s'est à 4 qui est meilleur présentement que Josh Anderson. Peux-tu lui donner un peu un anan et non le laisser sur le banc? Tu penses en plus qu'il l'a fait aussi dans le match contre les Sharks aussi qui n'ont pas beaucoup joué en troisième, mais tu sais, à un moment donné, à quel point qu'on veut vraiment donner de la place aux jeunes dans cette équipe-là? Je sais qu'on en fait beaucoup. Tu sais, des Cole Caulfield, on donne beaucoup de cordes, Nick Suzuki aussi. Slav également, récemment, ça va bien, mais tu sais, Ilonen, ça en a un autre aussi qui pourrait aider. Puis je trouve que c'est un peu le mal-aimé de cette équipe-là. Puis je trouve qu'il n'y a aucune raison pour laquelle il est dans cette position-là.
On fait un peu la même chose qu'on a fait avec les Conan à Montréal, malheureusement. Puis on a vu l'explosion qu'il y a eu avec l'Avalanche du Colorado. Ce que j'aime pas, moi, l'utilisation d'Ilonen, c'est qu'on semble pas être capable de donner plus que 10-12 minutes par game. Il nous fait gagner en tir de barrage la dernière game contre les Ducks. Il a quand même trois buts, trois bons buts qui ont recréé l'égalité ou fait un but marquant. C'est un joueur qui se présente à chaque rencontre. C'est un gars qui parle pas, qui chiale pas, qui fait rien de mal. Et oui, c'est un bon coup de pied parce que moi, je pense qu'on a une hiérarchie en Canadien de Montréal. On a toujours eu une hiérarchie et je pense que là, on le voit de plus en plus. Et venez pas me lancer la salade disant que oh, ben, t'es en reconstruction, c'est pas grave, les victoires ou les défaites. On parle d'emmener un joueur à un autre niveau. On parle d'un joueur qui pourrait peut-être remplacer un gars dans un top 9 ou un top 6 un jour. Il a seulement 24 ans. C'est un gars qui est très, très skill au niveau des mains. C'est un gars qui est quand même physique. C'est un gars qui a pas peur de se mettre dans le trafic. Donc, c'est puis en plus, c'est un Américain. Donc, c'est pas un Finlandais, là.
Techniquement, c'est un Finlandais, mais né aux États-Unis.
Né aux États-Unis. Fait que, c'est pour ça qu'il s'appelle Lonel, mais c'est un gars qui a joué le style en américain toute sa vie, donc il connaît quoi faire. Et t'as raison là-dessus. On donne beaucoup de chance à des gars qui ont des gros contrats présentement, puis on fait pas mal à l'équipe. Probablement parce qu'on ne veut pas gagner, puis on s'en fout de faire les séries cette année. Mais c'est quand. Et la question se pose de plus en plus, surtout sur ces réseaux sociaux, c'est quand qu'on va commencer à faire payer Martin Saint-Louis au niveau des victoires, au niveau de l'attitude de l'équipe. Et là, je pense que si on parle de ça, on va voir comment ça va. C'est pas en ramenant, malheureusement, notre ami, là, j'ai perdu son nom, là, mais le gars qui joue les mineurs puis qui revient à tous les deux secondes, jouer à l'Armia, c'est pas en jouant à l'Armia dans un top 6 ou un top 9 quand ça va changer. Et Lionel devrait avoir sa place dans le top 6 ou dans le top 9, au moins l'essayer en tout cas.
Non, puis si tu dis tantôt que les gens disent « Ah, c'est pas grave, c'est, on est en reconstruction, fait qu'on va faire », mais tu sais, c'est pas ça le point, c'est que je veux dire… Non. Si on est vraiment en reconstruction, ça implique qu'il faut que tu développes tes jeunes. Puis tu sais, Ilonen, ben, tu le développes pas en laissant ça à 4 puis en faisant sauter son tour une fois sur 3. Puis tu sais, il y a du talent. Là. Encore une fois, je dis pas que c'est un futur Hall of Famer, mais je pense qu'il peut jouer facilement sur un troisième trio actuellement chez le Canadien. Et ouais. Il fera pas mal à personne.
Écoute, on fait la même affaire avec Chris Evans. Là, puis je suis en parallèle. J'ai dit Chris Evans, moi. Ben oui, tu dis Chris Evans. Tabarnak. Ça va bien, mon enfant.
Ah non, c'est Mike Evans, le receveur.
C'est pour ça, Panto, je l'ai dit, désolé, Jake Evans. Donc, on fait un peu la même chose avec Jake Evans. Ça fait des années qu'on dit que c'est un gars qui peut dépanner sur une 3, peut-être une 2, une fois de temps en temps, mais c'est un joueur de quatrième trio. Mais on n'a jamais vraiment laissé la chance à Evans. Oui, il y a eu des grosses blessures, oui, il y a eu des commotions cérébrales. Mais c'est quand même un joueur intelligent. Et on donne pas la chance à ces gars-là. On dirait qu'ils sont étiquetés après seulement une saison. Puis on se dit, ah ben ça va être un joueur de quatrième trio de sa carrière, mais c'est pas tout le temps ça non plus. Là.
Bon, mais tant qu'à parler du Canadien, on va revenir sur la dernière semaine de l'équipe. Steph, t'avais dit, je pense, la semaine dernière, 5 points en 6.
Oui, j'ai passé proche.
Moi, j'avais dit 4 en 6, donc j'ai un morceau de robot.
Oui, un morceau de robot. C'était assez.
Merci. On a commencé ça avec le match contre les Ducks d'Anaheim, un match tard le soir que j'ai regardé la première période, mais c'est tout. Mais ça s'est terminé par la marque de 4-3 là, grâce à deux buts d'Alex Newhook. Puis lui, on n'en parle pas beaucoup de Newhook, là, mais il a connu un solide voyage.
Ouais.
Puis on va revenir tantôt avec le match contre les Kings, là, mais c'était un peu un des seuls qui s'est présenté dans ce game-là contre LA, là, Newhook, qui a créé des choses offensivement. Ouais. Mais contre Anaheim, ça s'est concrétisé avec deux buts. On parlait de Jake Evans, il a récolté deux passes aussi dans cette victoire-là. Pas grand-chose à dire de ce match-là. Je pense qu'on a quand même là, bien joué du côté du Canadien. Ce qui est un peu le contraire du match contre les Sharks, par contre, ça n'a pas été facile. Ça a été une victoire là, par la marque de 3-2 en tir de barrage, mais oh boy, que c'était pas facile à regarder par moment. Mike Hoffman qui ouvre la marque, ça, j'ai trouvé ça très drôle.
Mais oui.
Il n'a pas scoré à Montréal, il score le premier but dans ce game-là, évidemment. Mine de rien, Cole Caulfield a terminé le match avec un but de passe aussi. On a mentionné tantôt Ilonen qui a marqué le but gagnant en tir de barrage, mais. C'est pas un match que j'ai apprécié beaucoup du côté du Canadien, dans le sens que on était censé piler sur le corps. Ben, pas piler sur le corps, je veux dire, on n'est quand même pas l'Avalanche du Colorado, mais tu sais, les Sharks, tu regardes leur alignement, là, puis tu te demandes si une équipe de la Ligue américaine pourrait les battre, la réponse est probablement que oui.
Écoute, je suis plus sûr, man.
Prends la meilleure équipe de la Ligue américaine, je pense qu'elle peut
donner une tête solidement. C'est sûr, tu prends toujours les meilleurs contre les pires, ça va faire cette affaire-là, mais...
Non, mais
ce match-là, c'est qu'ils n'arrêtent pas les Sharks, là. Ils n'ont jamais arrêté, là. Puis c'est pas une équipe qui devrait te faire mal. mais ils ont été fatigants la soirée. Ils ont été très robustes. Anthony Duclair a mis toujours bon contre le Canadien de toute façon, donc ça l'a aidé. Giovanni Smith qui a fait sa job avait dérangé un peu le Canadien. Et on n'a pas vu dans ce match-là Cole Caulfield. Cole Caulfield présentement qui fait la pluie le beau temps quand il n'y a personne sur la glace, mais que quand c'est le temps d'être robuste, il ne l'est pas vraiment. Donc ça nous osait, on est arrivé là, ça nous osait, puis on s'est dit, gars, c'est une équipe qui est prenable. Montréal n'est pas dans le premier tiers national. Et on l'a vu là. Puis les personnes qui ont douté, qui ont pensé que les Canadiens devraient piler sur les Sharks, je suis désolé, mais les Sharks ont quand même eu un bon match.
Puis un aussi qui a eu un bon match, c'est Kellen Primeau qui a encore été envoyé dans la mêlée, a fait très bien. Il était solide également en tir de barrage. Donc, mine de rien, c'est une autre victoire là, pour Kellen Primeau.
Ouais.
Facilite pas les choses vraiment, là, Kellen Primeau. Je pense que du côté du Canadien, on espérait quasiment secrètement qu'il se plante quand on l'envoyait contre les Devils, contre les Red Wings, contre les Golden Knights.
Ouais.
Mais à chaque fois, oui, il y a peut-être contre les Golden Knights là, qui s'est peut-être écroulé là, plus tard dans le game. Il avait connu une très grosse première période. Mais jusqu'à maintenant, Primeau qui tient son bout, puis ça facilite vraiment pas les choses là, pour le ménage à trois là, des gardiens de but du côté du Canadien. On n'aurait pas dit qu'à un moment donné, il faudrait que ça se termine. Mais là, Primeau qui dit « Attends une minute, là, vous ne me tasserez pas de même aussi facilement. »
Non, ce qui est surprenant là-dedans, c'est que c'est lui qui a la troisième plus pire moyenne de but, de save percentage, qu'on appelle. Mais il y a la deuxième de but alloué, puis on l'a vraiment arrivé de jouer contre des équipes chiennes les trois premiers matchs. Donc, je pense qu'on allait pour le Sharks, on pensait que c'était pour être la débandade, puis le Canadien ne se présentait pas, mais il a fait la job. Puis écoute, bravo à lui, écoute, c'est du caractère. J'aime pas Pierre qui arrête pas de dire RDS, qui pense que vu qu'il a tellement pas joué, qu'il a passé plus de temps que son coach, il est devenu meilleur à cause de ça. Là. Je pense pas que c'est ce qui fait qu'un joueur est meilleur. Oui, les pratiques, c'est important, mais quand tu pratiques 365 jours par année et puis tu joues pas de game, ça n'aide pas grand-chose. Moi, je pense que c'est dans une autre optique. Puis je pense que Primeau, sans vouloir le dire, puis il dira jamais aux médias, est prêt peut-être à passer à une autre chose avec le Canadien ou est prêt à prendre le poste numéro 2. Donc, dans sa tête à lui, à chaque match, il va grinder. Puis il y a de la place pour lui, soit ici ou soit ailleurs de toute façon. Donc, moi, je pense que ce optique-là fait en sorte que ça va bien pour lui cette année à cause de ça.
Et Canadien qui conclut là, sa semaine contre les Kings de Los Angeles dans un match plate, là, c'était pas vraiment intéressant à regarder. Puis je dis pas ça parce qu'on a perdu 4-0, mais vraiment au niveau du rythme puis tout ça, je trouve que c'est un bon vieux match contre les Kings où il se passe pas tant grand-chose. Puis à un moment donné, il y a un but qui pop une fois de temps en temps. Évidemment, Pierre-Luc Dubois, deux passes dans ce match-là, c'était sûr qu'elle allait connaître un bon match. Deux buts aussi pour Trevor Moore. Jake Allen qui a peut-être mal paru sur un ou deux buts dans cette rencontre-là, ça n'a pas aidé vraiment.
Non.
Mais je ne sais pas si on a tout laissé sur la table contre les pauvres Sharks de San Jose. Mais visiblement, le Canadien n'avait juste pas de jus là, contre les Kings. Puis ça a été long avec qu'on se mette en marche. Je pense qu'à un certain moment, en première période, là, les Kings qui avaient 8 ou 9 tirs, puis le Canadien en avait un ou deux. Là. Fait que, c'était pas un grand match. C'est ça, on a closé ça avec peut-être une défaite un peu plate à regarder. Mais somme toute, c'est quand même 4 points sur 6 jusqu'à maintenant. Il reste un autre match sur la route contre les Blue Jackets mercredi. Ensuite, on va jouer dès le lendemain contre les Panthers, en fait jeudi, à Montréal. Et samedi, un autre duel contre les Red Wings, Steph. Ça fait
deux fois
qu'on joue contre les Red Wings. Ouais. Ça, on est juste en novembre.
J'espère pas d'être là, mais je serais pas. Fait que...
Ah, dommage. Combien de points sur 6?
Je ne l'écoute pas, ce match-là. Je veux rien savoir. moi, je pense que ça va être 4.
OK. Et maintenant, contre qui on a des points? Contre qui on perd?
Alors, vous allez perdre contre les Red Wings, c'est correct. Mais vous allez gagner probablement contre les Blue Jackets et les Panthers.
Ouf. Hey boy, les Panthers, ça va être tough. Man. Ça va être tough contre les Panthers. Là.
Ouais, j'avoue. Peut-être un 3 à place. Ouais, 3.
Un 2 matchs en 2 soirs. Tu voyages en plus.
Ah oh ouais, ils sont tellement à faire à pitié. Là. Ouf.
Ouais, c'est pas le temps de faire pitié ou pas.
Ils sont dans le même fuseau horaire au moins, là. Mais ouais, 3 points. Ah, ouais, je sais pas.
Un
peu,
ah, 2. Ah, 1 finalement.
Non, peut-être pas 1, là.
Moi, je vais aller avec 3 en 6. Victoire contre les Jackets, défaite contre les Panthers, puis 1 point contre les Red Wings.
Tabarouette.
En fait, les Red Wings se replacent un peu parce qu'ils
font... Arrête, on a battu les Bruins, mais on a battu... encore aujourd'hui, on a battu...
C'est vrai, ils jouent aujourd'hui aussi.
Arrête. On a battu les Wild 4-1. Tout va bien. Tout va bien. On a le même affaire que les Panthers. On est égal aux Panthers. Dis là, toi, man.
Alors, tu vas y voir descendre, ça sera pas trop long. Vasilevski de retour, là, l'enfant prodige est de retour du côté de
Black. Oui, c'est ça. On a battu les Devils 4-0, les Browns 5-2, puis on vient de battre le 4-1 contre le Y, mais on est en bande descendante, les boys.
Ouais, je te le dis, l'enfant prodige est de retour du côté de L. Pas L, mais t'aimes pas.
Ah ouais, c'est ça. Ouais, Vasilevski, c'est vrai.
Au premier match, en plus, 8-2 contre les Hurricanes. Ouh,
J'avais oublié que c'est lui qui faisait l'équipe.
Puis après ça, oui. Puis là, il y a sûrement un autre qui va se blesser pour faire de la place un peu pour qu'on se stack à date limite des transactions. Là,
ouais, c'est ça
que je vais
voir. Exact. Ah, oh, c'est sûr, certain. Ça pourrait être peut-être pas Brandon Point, ça serait plate parce que c'est quand même un joueur le fun à jouer. Là. Un gars le fun à avoir joué, mais. Peut-être un Nick Paul ou. Pas Stamkos. On ne peut pas se blesser Stamkos. C'est comme Captain America.
Pour que ce soit du salaire qui débarque, là. Victor Edmond?
Brandon Bagel. Tain, on va sortir le Bagel.
Écoute, Steph, je veux qu'on vienne sur les Oilers d'Edmonton. On va varger ces Oilers. Je sais qu'on n'a pas été tendre les dernières semaines, mais écoute, depuis le congédiement de Jay Woodcroft, les Oilers ont maintenu une fiche de 3 victoires, 3 défaites. Ouais. 23 buts marqués contre 21 buts contre, mais il y a 4 matchs sur les 6 qu'on a accordé 3 buts et plus. Fait que visiblement, il n'y a pas grand-chose qui est réglé. T'es-tu surpris?
Pas en tout, non. Moi, je pense qu'on a appuyé sur le bouton panique beaucoup trop vite du côté de Canarlin. Je pense que c'était pas Woodcroft le problème, mais je pense pas que McDavid est content que Woodcroft s'est parti. Par contre, on a gagné contre 3 équipes qui sont moyennes. On a perdu contre 3 équipes qui sont dans le premier tiers. Donc, Tampa Bay 6-4, les Panthers 5-3 et 6-3 contre les Hurricanes.
Tu sais que le Lightning était dans le premier tiers?
Ben oui, là, ils sont dans les premiers 10 équipes. Là. Mais bon, fait que c'est ça. Donc, en même temps, je pense que tu sais, McDavid a peut-être débloqué un petit peu. Je pense que Drysdale avec 26 points fait quand même la job. Le problème, c'est encore devant le filet. Mais c'est défensivement qu'on n'est pas bon du côté des Oilers. Puis malheureusement, je pense pas que l'organisation veut mettre des changements. J'écoutais le podcast là, de Tony Two Tots, puis tu sais. Je pense pas que le bouton panique encore plus doit être fait. Je pense pas qu'on va aller chercher un gardien de but de 6 millions pour perdre des choix de première ronde ou scraper les prochaines années. Par contre, il va falloir que les Oilers et que Nolan soient vraiment intelligents parce que si McDavid décide de vouloir partir parce qu'ils veulent plus être là, ça va être d'autres choses. Parce qu'au niveau des points, je pense pas que c'est un problème. Défensivement, on est très, très mauvais et très, très, très mauvais. Et ça paraît présentement.
C'est là que je veux te lancer parce que, tu sais, oui, on n'a pas le bouton panique, mais il ne faut pas oublier que Draisaitl, son contrat se termine l'an prochain. Il ne faut pas oublier que McDavid, je pense, c'est l'année d'après. À un moment donné, si les deux joueurs voient que leur GM se stack carrément de régler les problèmes.
Tu veux faire quoi avec 55 000$ de libre si tu as plus de salaire salarial?
Ben, c'est là, faut que tu sois créatif, mon chum. T'es payé pour ça.
Tu peux pas l'être. Il n'y a personne qui va prendre un contrat comme Evander Kane à 5,1 millions. Il n'y a personne qui va prendre un contrat comme Zach Hyman à 5,5. Il n'y a personne qui va prendre Ryan Gunnarsson à 5,1, je pense. Pas pour la longue durée qu'il a. Il est encore là pour 6 ans. Daniel, j'en parle pas. C'est une catastrophe.
Ben, ça, oublie ça, tu penses
pas. Donc, non, mais c'est ça le problème. T'sais, on n'a pas beaucoup de place, la masse salariale. Moi, je pense que s'il y a une équipe qui peut quand même réussir à bien finir l'année et avoir un bon stretch, c'est les Oilers d'Edmonton. Mais je pense que c'est après 35 parties, donc autour de Noël, après Noël, là, le 1er janvier, si on était vraiment en fond de la cave encore, là, le bouton panique va se peser, mais je te dirais que...
Mais si je te pose, je vais t'amener une autre couche sur Ken Holland. Parce qu'on dirait que, tu sais, pour faire une image de Ken Holland, j'ai comme l'impression, là... Pas mal, tout le monde a déjà vu le mime là, du chien qui était assis sur une table et que c'est en feu tout autour de lui. Puis il dit « Ah, tout va bien ». J'ai l'impression que Ken Holland est un peu rendu là. Parce que tu sais, lorsqu'on écoute les podcasts justement de 32 Toss et tout ça, ce qu'on retient surtout, c'est que l'équipe ne veut pas appuyer sur le bouton panique, Moi, j'ai comme l'impression que ça vient plus haut que Ken Holland. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ken Holland, son contrat se termine cette année. Et probablement conscient qu'il ne sera pas de retour.
Non, c'est justement.
À quel point le propriétaire va lier les mains de Ken Holland en disant non, toi, tu n'iras pas scraper le club, là, tu t'en vas à la fin de la saison, fait qu'on reste à du coup, puis that's it, il arrivera ce qui arrivera pour cette saison, ce qui pourrait être logique, parce qu'évidemment, tu veux pas que ton prochain GM arrive, puis que son équipe soit toute démembrée, puis qu'il reste pas à moitié de choix de repêchage ou des espoirs. Mais moi, c'est plus au niveau de Draisaitl et McDavid que ça peut être un jeu dangereux. Là. Et tu vois la face de McDavid sur le banc, que ça va pas bien. Là. C'est, d'après moi, si c'était pas qu'il était le capitaine, qu'il était pas payé 10 millions et plus, je pense qu'il prendrait ses bâtons et sacrerait son camp au premier de la game. Là.
Je pense pas parce qu'il fait partie
de son. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est une image que je fais en voulant dire que.
Ouais, je comprends.
Tu vois la face, là, puis il a pas l'air de vouloir être là en ce moment. Là.
Je comprends, mais c'est lui le. Tu sais, il fait partie du problème. C'est triche à ligne bleue, Draisaitl triche à ligne bleue, Hyman triche à ligne bleue. Je pense que Hyman, c'est le seul qui triche le moins. J'ai nommé Hyman avant, mais je pense que c'est un des seuls qui triche le moins. Mon problème que j'ai avec ça, c'est si tu regardes l'Ouest, puis j'ai. Quand Elliott Freeman en parlait dans son podcast, j'étais d'accord avec lui, parce que quand tu regardes la tendance qui va se faire, excusez-moi, ça devrait prendre moins de points dans l'Ouest pour faire les playoffs. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, faut que les Oilers maintiennent une fiche de 650 et plus d'ici la fin de l'année. La seule équipe qui peut le faire dans l'Ouest, c'est eux autres.
Ouais, sauf que le problème, c'est que c'est pas mal le pourcentage d'efficacité de leur gardien actuellement à 650.
Exactement. Donc, c'est juste, tu sais, on est 4-6 aux 10 derniers matchs. C'est pas bon. Je sais que c'est pas bon. On est vraiment pas bon à l'extérieur. On est 3-8. On a joué quand même bien plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Il y a un stretch qui s'en vient. Je sais pas si tu regardes la cédule des Oilers. Le stretch qui s'en vient est quand même pas si pire. On va jouer contre des bonnes équipes, mais c'est quand même un stretch qui peut se faire. Là, on va affronter les Ducks, le Blue Jet, les Golden Knights, un bon test encore avec les Jets. Puis après ça, on va rencontrer quand même des équipes qui sont prenables du côté des Oilers, je pense. Et moi, là, je pense pas qu'on va baisser ce bouton panique. On veut pas scraper ce qui a déjà été fait. Et moi, je pense que c'est une marque soit de respect envers les joueurs comme Draisaitl puis McDavid, mais en même temps avec l'organisation. Si tu pèses le bouton panique, on l'a fait trop souvent avec les Oilers. Regarde le dossier Taylor Hall, regarde les dossiers, ce qu'on a fait avec d'autres joueurs. Et moi, je pense que si on prend notre temps, puis on scrape peut-être cette année, c'est pas grave, on va repêcher au pire plus haut, puis on ira voir pour des meilleures solutions cet été. Faut pas oublier que le cap space va changer beaucoup cet été. Parce que juste cet été, on va sauver quasiment un 14 millions en projet de cap l'année prochaine. Il va falloir signer Draisaitl l'année prochaine, mais je pense que si on a le meilleur moyen, on va le faire. Et on a quand même beaucoup de contrats qui servent un peu à rien qui va se finir cette année. Il faut penser aussi que Jack Campbell devrait être acheté. Donc, c'est un autre 3.8 qu'on va aller chercher aussi de ce côté-là. Donc, oui, c'est pas idéal. Mais moi, si je suis le Wild Minnesota, oui, je passe le bouton panique. Si je suis les Oilers Edmonton, je pense que je vais attendre encore un petit peu.
Écoute, dossier à suivre, là, mais moi, je pense qu'on joue dangereusement actuellement chez les Oilers. Là.
Oui, mais encore l'effet entraîneur. Puis la question est bonne, ta première question originale, c'était ça. Est-ce que ça a changé depuis le retrait de Woodcroft? Non, puis ça ne changera pas non plus. Faut arrêter de penser que les entraîneurs sont la seule solution pour qu'une équipe ne fonctionne pas. Et je pense pas que c'est. Je pense plus que c'est comme ça. Avant, les joueurs jouaient avec des salaires moins grands. L'entraîneur avait plus de pouvoir, je pense. Puis les entraîneurs gagnaient de l'argent aussi presque la même affaire que les joueurs. Ça a changé. À part les Babcock se montrent qui ont des 5-6 millions, puis les coachs qui gagnent beaucoup d'argent. À ce temps, les joueurs sont beaucoup plus fortunés. Puis je pense que les joueurs emmènent beaucoup plus large dans les vestiaires que les entraîneurs peuvent le faire. Puis je suis pas mal sûr que Martin Saint-Louis va pas entre les périodes, à toutes les périodes avec le Canadien. Probablement que les gars se parlent du seul. Donc. T'sais, on parle d'une nouvelle génération au niveau des joueurs, au niveau des jeunes joueurs qu'on a dans les juniors et dans les autres ligues. Ça fait la même chose avec National. Les jeunes joueurs n'ont pas le goût d'entendre leur coach quand ça va mal. Ils savent que ça va mal. Et McDavid, là, oui, est en crise dans ses entrevues, là, mais il se fait poser les mêmes questions tout le temps. Puis honnêtement, je n'ai pas de problème qu'on lui pose la question s'il devait gagner 7-5 ou un 5-4-1. Le journaliste là-bas, il fait sa job. Puis honnêtement, s'ils sont frustrés à cause de ça, tant mieux. Mais ça, c'est du journalisme. Puis à un moment donné, le jour qu'on va enlever ça aux journalistes, ça va être de la merde. Déjà qu'à Montréal, on file probablement tout. Ailleurs, on le fait quand même encore un petit peu. Et mon problème que j'ai là-dedans, c'est que les joueurs le savent. Draisaitl, là, quand il arrive chez eux le soir, il est pas content. Là. Qu'il ait fait 2 buts, 3 passes, sans calice, ils sont quand même 6-12-1. Là, donc, je pense que les joueurs, les vedettes, les grands joueurs comme les Crosby de ce monde, les Ovechkin, on peut le mettre là-dedans un petit peu. N'aiment pas perdre, que vous le voulez ou pas. C'est pas des gars qui veulent chercher leur paycheck, ils s'en foutent, ils veulent gagner. Et moi, je pense que ça va passer par la chambre. Ça passera pas par la direction ou l'entraîneur. Ken Holland n'a jamais été reconnu pour être le gars qui partait les étincelles avec les Red Wings. Là. Je l'ai eu par mon DG pendant quoi 12 ou 13 ans. C'est pas le gars qui va sortir l'étincelle, c'est les joueurs qui l'ont fait. C'est le caractère des joueurs qui l'a fait avec les Red Wings. C'est... Donc, ça sera. Faut pas s'attendre à ce que Ken Holland fasse cette job-là. Et je vous le dis, puis tu l'as dit tantôt, attendez-vous pas que Ken Holland signe un contrat d'ici la fin de la saison. Là.
Non,
si les Oilers reviennent dans la course et font les séries ou faillissent de faire les séries, on va peut-être offrir un nouveau contrat, mais moi, je pense que pour l'instant, il n'y aura pas de contrat l'année prochaine.
Non, moi, je pense que je serais énorme. Puis même si les Oilers font une série, là, honnêtement, je ne serais même pas prêt à dire qu'il va y avoir une prolongation de contrat. Là.
Il y a beaucoup de noms qui circulent aussi. Là.
Je pense que ça fait combien de temps qu'il est là, Holland? Ça fait quand même une couple d'années qu'il est là.
3 ans?
Pas plus que ça. Il me semble qu'il est arrivé... Alors, je me mêle peut-être avec Kekalainen.
Kekalainen, ça fait 10 ans qu'il est là, 12 ans.
Mais bon. On verra bien du côté des Oilers, mais moi, présentement, si je suis le propriétaire des Oilers, moi, je ramène pas Holland la saison prochaine. Je pense qu'une nouvelle voie là, s'impose au niveau du DG, parce qu'écoute, ça fait...
5 ans qu'il est là.
On est en train de scraper carrément les plus belles années de McDavid et Dreisaitl.
Ouais, faut se calmer un peu, là. Sacrifice. On est à la remise un peu, là. Et, tu sais, je pense que...
Non, mais... sont dans leur pic actuellement.
Ils ont juste 26 ans, là. Ils n'ont pas 35, là. Du coup.
Non, je sais, mais le pic d'un joueur, normalement, c'est entre 23 puis peut-être 27, 28. On est là-dedans.
Plus à cette heure, là. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Non.
Moi, je te le dis.
Pas d'accord avec ça.
Moi, je te le dis.
Les Tage Thompson de ce monde n'ont pas été bons avant 26.
Bon, mais là, attends, là, qu'on parle des pommes avec des bombes, là. Voyons.
Bah, Crosby.
On parle Carey Price avec Anton Khudobin rendu là, je veux dire.
Carey Price n'a pas été bon les 5 années de sa vie jusqu'à 25 ans, mais il a commencé à dominer.
Bon,
après.
Mais les goalers, c'est plus long aussi. Là. Mais,
c'est l'équipe en avant de lui. Là. C'est pas lui qui était pas bon. Là. C'est l'équipe en avant de lui. Il faut arrêter de dire que c'est McDavid le problème et Drysdale. Les deux font 160 points par année. Là. Et puis, ils n'ont pas plus une équipe gagnante. Là. McDavid va être bon pendant 10 ans encore. Là. Si Crosby est encore bon en 36 ans, McDavid va être aussi bon dans 10 ans. Je comprends ce que tu veux dire, mais Ovechkin a gagné sa Coupe Stanley à quoi, 33 ans ou 32 ans? Puis il avait scoré 600 buts déjà, là, tu sais. Fait que maintenant, je comprends qu'ils sont jeunes, je comprends qu'ils sont dans le pic à 26 puis à 28 ans, les deux, mais ils ont encore beaucoup d'années devant eux autres. Là. Moi, c'est pas un problème. Là.
Et bref, prochain sujet, mon cher Steph. Compétition internationale en 2025, est-ce que ça va avoir lieu ou non? D'abord, ça partie avec le podcast d'Eliott Friedman là, qui a mentionné que la Ligue nationale se penchait là, pour créer un tournoi international en fait en 2025 parce qu'on veut ramener évidemment les joueurs de la LNH aux Jeux olympiques, mais ça fait des siècles qu'on dit ça puis ça n'arrive jamais pour X raisons. On veut ramener la Coupe du monde évidemment aussi, mais ce tournoi-là en 2025, ça ne serait pas une Coupe du monde. C'est vraiment un événement isolé si on veut. On veut juste ramener du hockey international, en fait, là. Mais ça ne serait pas la Coupe du Monde. On ramènerait ça plus tôt, je pense, c'est 2 ans après cette compétition-là. Donc, dans le coin de 2027, on voudrait ramener une Coupe du Monde. J'ai fait le saut pareil quand on a vu c'était quoi les paramètres là, qu'on vise là, de côté de la LNH. Premièrement, entre 4 et 6 équipes seulement. S'il y a 4 équipes, ça serait le Canada, États-Unis, la Finlande, la Suède. Si c'est 6, là, il n'y a pas nommé c'était quoi les 2 autres potentiels. Évidemment, la Russie serait exclue, donc on ne veut rien savoir des joueurs russes dans cette compétition-là. Le tournoi durerait 1 semaine seulement. Aussi, on amène la possibilité qu'il y ait des matchs disputés en Europe et en Amérique du Nord durant la même compétition. Donc, si exemple, là, on aurait évidemment Canada, États-Unis, Finlande, Suède, ben, il y aurait des matchs entre le Canada et les États-Unis en Amérique du Nord, puis il y aurait des matchs en Europe entre la Finlande et la Suède. Puis j'imagine qu'après ça, pour la finale, on donnerait un endroit X là, pour disputer la finale. Mais toi, quand tu regardes tout ça, Steph, là, est-ce que ça t'emballe pour un tournoi comme ça, à 4 équipes, qu'il manque plusieurs joueurs? Moi, j'ai comme l'impression que c'est une compétition sur le coin d'une table qui va être facilement oubliée. Là.
Ce que j'ai l'impression que c'est quoi? C'est que les joueurs, en fait, les joueurs poussent pour ça. J'ai l'impression que c'est l'organisation de la Ligue nationale ne voudrait pas faire ça. On a parlé qu'à chaque 2 ans, il y aurait une compétition. On parle des compétitions que tu parles à tous les 2 ans. Les Jeux olympiques, les 2 autres années. J'ai l'impression que les joueurs veulent avoir ce genre de compétition-là. Et la Ligue nationale ne veut pas. c'est con à dire, là. Parce qu'il y a la Ligue nationale qui l'organise, mais oui, ça a l'air broche à foin. J'ai pas lu à côté sur qu'est-ce que c'est. Pour la seule et bonne raison que ça m'intéresse, juste pas. Donc... Non, c'est cool, là, le 6 équipes, peut-être que probablement que l'Allemagne va être là-dedans ou la Suisse. Puis, tu sais, je comprends l'intérêt à la chose internationale, mais tu as dit le mot-clé tantôt, c'est pas tous les meilleurs joueurs vont être là. On fait ça dans un temps, je pense, qui n'est pas la bonne affaire pendant la saison. Je ne sais pas où on s'en va avec ça, c'est vraiment bizarre.
Mais écoute, moi, mon gros problème, on vient de mentionner, c'est que tu n'auras clairement pas... Tu sais, tu n'auras pas un Leon Draisaitl, tu n'auras pas... Ben, premièrement, bon, on va ouvrir une parenthèse. T'es-tu d'accord pour qu'on exclue encore une fois les Russes d'une compétition comme ça?
Ben là... Je sais pas pour vrai. Je pense que le hockey c'est différent que l'athlétisme, honnêtement. Là. Mais je pense que non. Je pense qu'il faut en revenir à un moment donné.
Écoute, moi, personnellement, je comprends juste pas pourquoi que. Tu sais, je comprends là, qu'on veut bouder la Russie et tout ça. Mais c'est quoi de au pire prendre la Russie. Tu sais, faire une équipe de la Russie, mais prendre juste uniquement les joueurs qui sont dans la LNH actuellement. Parce que je veux dire. Ils jouent déjà en Amérique du Nord. On les a déjà dans la TV devant nos écrans. Je veux dire, que tu les exclus, ça change sweet fuck all. Tu sais, je veux dire, je suis d'accord qu'au pire, la Russie n'a pas le droit de prendre des joueurs, mettons, qui jouent actuellement dans la KHL. Ça, je serais down avec ça. Parce que, anyway, là, tu regardes là, l'équipe russe, tu es capable de faire une équipe russe solide avec juste ce qu'ils jouent dans la LNH.
Oui, bien,
mais
oui.
Surtout avec les gardiens que tu as Shesterkin et Sorokin comme deux gardiens de but. Puis en plus, tu as Vasilevski aussi. C'est juste là, tu as quand même du stock pas pire. Tu as des Kucherov, tu as des Ovechkin, tu as des Malkin. Puis tu as même le jeune défenseur du côté dans la ligne qui fait très bien cette année, le Minty Yukov. Tu es capable facilement de faire un club russe avec ce que tu as dans la LNH. Puis tu sais, comme j'ai dit, ils sont déjà dans le circuit anyway. Fait que tu sais, je veux dire, si on voulait vraiment bouder la Russie puis qu'on ne veut vraiment pas que des joueurs russes jouent, ben il n'y en aurait pas dans la LNH actuellement. Là. Fait que tu sais, je comprends que c'est une question de contrat. On signe un contrat avec la NHL puis tout ça. Je veux dire, tu peux pas vraiment juste les tasser du revers de la main. Mais je peux comprendre ça, mais je veux dire, ils jouent déjà. Fait que quand même, si tu vas dans la compétition, ça change quoi rendu là. Puis au pire, si tu peux vraiment pas associer la Russie, fais comme qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques, je sais plus trop au camp, fais une équipe genre.
Ah non, ça c'est là. Ouais.
C'est ça, c'est au pire. Puis tu sais, je trouve
ça. Europe, point, c'est tout là.
Puis tu sais, sinon. Au pire, si tu veux pas, parce que tu sais, je comprends qu'on peut pas avoir non plus 24 équipes dans cette compétition-là, mais tu sais, quand ils ont fait la Coupe du Monde, je pense que c'était en 2016, tu avais l'équipe Europe, justement, que ça regroupait bon, les plus petits pays. Bon, il y avait la Suisse, l'Allemagne, tout ça, Slovaquie, République tchèque aussi, ou si la République tchèque avait son équipe, je me souviens plus. Puis il y avait aussi une équipe qu'on avait faite, puis ça, j'avais trouvé ça cool. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec moi, mais l'équipe des moins de 23 ans, je trouvais ça le fun. Parce que ça nous permettait de voir un peu c'était quoi l'avenir. C'est vite dit parce que c'était des joueurs qui jouent déjà dans la LNH. Mais tu sais, un peu à long terme, ça serait quoi l'avenir? Si on avait des McKinnon qui jouent dans cette équipe-là, tu avais des McDavid qui étaient là. Fait que tu sais, je trouvais ça le fun, cette équipe-là. Je comprends les gens qui ne veulent pas qu'on ramène cette équipe-là nécessairement parce que ce n'est pas un pays. Fait que tu sais, ça compte pas vraiment sa place dans une Coupe du Monde. Mais je trouve tellement que c'est un peu botché qu'est-ce qu'on va faire actuellement avec ce tournoi-là. C'est juste quatre équipes potentielles. Puis tu sais, tu regardes juste l'Allemagne. Là. L'Allemagne aurait une solide équipe pour vrai. Là. Peut-être pas de
l'Allemagne, oui.
Là, mais tu as des Seider, tu as des Stutzla, tu as des Draisaitl qui sont là. Tu as des Peterka aussi, tu as des Lucas Reichel avec les Blackhawks. T'sais, ça commence à pousser comme pays. Ce serait cool qu'ils aient leur propre équipe eux aussi. Ouais. Fait que je trouve ça plate un peu qu'on se limite seulement à quatre équipes. Il y a sûrement des raisons, peut-être monétaires aussi. Puis ça, c'est sûr qu'on n'a pas tout l'envers du décor. Mais tant qu'à proposer un tournoi international, ce serait le fun qu'il y ait le plus de joueurs possibles qui soient impliqués et non seulement quatre équipes.
C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Surtout qu'il y a de plus en plus de nationalités qui jouent avec national. Puis c'est sûr que les équipes vont être plus faibles parce qu'il y a un ou deux joueurs par nationalité. Mais comme tu dis, je pense que les Allemands, les Suisses ont de plus en plus de joueurs. Et donc, ça serait super le fun de voir ça.
Puis sinon, évidemment, je te pose la question sur le spot comme ça, mais est-ce que tu y crois un retour aux joueurs de la LNH aux Jeux olympiques? Parce qu'on dirait que c'est une légende urbaine. On dirait on en parle, mais ça n'arrive jamais.
Il faut. Moi, je pense qu'il faut. Moi, je pense que les joueurs veulent y aller. Moi, je pense que c'est une des... choses que les joueurs veulent faire, surtout les bons joueurs. Donc, ils n'auront pas le choix. À un moment donné, ils n'auront pas le choix de le faire.
Écoute, dossier à suivre, mais bon, ce serait prévu, comme j'ai mentionné, pour 2025. Évidemment, bon, c'est les premières idées qui sont sorties de ce tournoi-là. Est-ce que ça va être ça nécessairement? Peut-être qu'on va discuter puis qu'on va finalement changer la formule. C'est pas impossible. Mais présentement, c'est ce qui circule. Là. Ça serait 4 à 6 équipes. On exclut la Russie. Le tournoi dure une semaine. Puis ça se peut qu'il y ait des matchs là, autant en Amérique du Nord qu'en Europe. Écoute, Steph, je te laisse le tapis rouge pour la suite des choses, pour les sujets que tu voudrais discuter en rafale. Donc,
Ouais, on a 7 sujets aujourd'hui, puis on va en parler un petit peu parce qu'il y a un couple de sujets que je veux qu'on parle. Et c'est sûr que les dossiers standards, là, moi, il y a un dossier qui m'est parvenu cette semaine, puis que je vois de plus en plus aller depuis, je dirais, les 3-4 dernières années. Carey Price a fait partie de cette aide-là aux joueurs. Et moi, je trouve que de plus en plus, il y a de cas d'aide aux joueurs. Et là, on parle de Gérard cette semaine, on parle de Milan Lucic, la même chose, avec probablement la boisson et sa femme la semaine passée. On parle de Corey Perry, qu'on sait pas où ce qu'il est.
Parenthèse, ça, c'est-tu weird un peu, ce dossier-là?
C'est vraiment bizarre. Et honnêtement,
même l'équipe peut pas en parler, puis ça a l'air nébuleux. Là.
L'agent dit que c'est à cause de l'équipe et la famille, et l'équipe dit que c'est parce qu'eux veulent pas le voir faire jouer proche d'entourage. Donc, ça, c'est. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et ma question est poche. Puis là, vous allez me dire, ah, t'es fatiguant, t'es plus vieux que tout le monde, blablabla. Mais qu'est-ce qui se passe en Ligue nationale? Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes? C'est une question de génération. Et je blâme pas la génération qui s'en vient. Je blâme pas la génération qui est en bas de 30 ans ou en bas de 35 ou celle qui joue en nationale présentement. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais eu autant de cas, en tout cas, qu'on sait. Avec l'organisation des d'aide aux joueurs pour soit de l'alcool, la drogue, l'anxiété, l'anxiété sportive. Moi, dans ma tête à moi, là, je suis peut-être vieux jeu, là, mais si tu te rends dans une nationale, c'est parce que faut que tu sois une tête de cochon puis quelqu'un qui trime dur. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des joueurs qui l'ont tout cru dans le bec. Puis je pense pas que c'est ça le problème avec ces joueurs-là. J'ai des négros qui prennent l'occasion d'y aller. Allez-y prendre de l'aide, c'est important. Le mental health, on en parle de plus en plus. C'est une très bonne chose qu'on en parle. Je suis zéro contre ça. Mais c'est incroyable le nombre de cas qu'on a depuis les 3-4 dernières années. Est-ce que c'est la COVID qui a fait ça? Et c'est le fait que les joueurs sont moins entourés par les équipes? Est-ce que c'est le fait parce que les joueurs sont seulement des numéros dans les nationales? Ils ne sont pas des vedettes comme dans les autres sports. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on est mal entouré du Conseil national? Mais on va falloir remédier à ça. Et moi, je pense que les propriétaires et les directeurs généraux vont devoir se remédier à ça. Oui, on a créé cet effet d'aide aux joueurs, mais ça va plus loin que ça. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est des dossiers qui sont lourds, des dossiers pour 6, 7, 8 mois qui partent. C'est des pères de famille qui en parlent sur les réseaux sociaux après. Donc, il faut être capable de prendre la pression, mais il faut être capable aussi de trouver le moyen de payer sur le bouton off et on. Là. Donc, ma question, moi, c'est qu'est-ce qui se passe dans la Ligue nationale? Je ne sais pas ce qui se passe.
Moi, je pense pas que c'est un problème de génération ou quoi que ce soit. Moi, je pense plus qu'à cette heure, les joueurs, ils ont juste plus peur d'aller voir de l'aide parce que ça date pas d'hier. Là. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est en... Je ne veux pas citer quelqu'un que ce n'est pas le cas, là, mais je pense que c'était André Roy qui disait que quand il était avec le Lightning aussi, que il était dans l'anxiété aussi, il était dans l'alcool aussi, parce que bon, il était souvent pas exclu de l'équipe, mais vu que c'est un homme fort, ben, c'était pas le joueur qui était le plus valorisé puis tout ça. Moi, je pense que je pense que c'est lui. Il me semble qu'il en avait parlé à Poche Bleue, je me souviens plus c'était où qu'il en avait parlé, mais. Il me semble que c'était lui, mais tu sais, c'est pas un problème. Tu sais, Derek Bougard de ce monde, tu sais, il y a plein de joueurs qui ont eu des problèmes de consommation dans le passé, puis ça date pas d'hier. C'est juste que là, les joueurs ont une solution maintenant, puis ils apprennent. Moi, je pense que c'est juste ça, puis c'est tout en leur honneur, honnêtement, parce que dans une équipe autant compétitive que ça, tu veux pas montrer que t'es ton maillon fait parce que tu le sais qu'il y en a 8 qui vont prendre ton spot en arrière de toi. Là. Mm-hmm. Puis tu sais, pour vrai, chapeau à Samuel Girard, chapeau à tous ceux-là qui ont pris la... Il y a Samuel Poulin aussi qui l'a fait avec les Penguins de Pittsburgh. Mm-hmm. Chapeau à tous ces gens-là qui n'ont pas peur d'aller prendre de l'aide maintenant, puis que c'est plus autant mal vu que ça a été mal vu il y a 20 ans. Là. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est un problème de génération. Je pense que les gens ont juste évolué puis comprennent maintenant que, tu sais, oui, c'est bien beau que c'est un domaine compétitif puis que faut pas que tu cèdes un pouce à personne parce que tu vas te faire manger la laine sur le dos. Mais à un moment donné, quand ça marche pas, ça marche pas.
Ouais.
Et si tu ne vas pas voir d'aide, ben ça va juste t'enliser. Puis ça pourrait, malheureusement, là, ça va paraître extrémiste, ce que je vais dire, mais ça va peut-être mal finir à un moment donné à la fin.
Ouais, je suis d'accord. On l'a vu avec Derek Bougard.
Je pense que c'est juste une bonne chose. Oui, c'est sûr qu'il y a comme les cas de Bougard et tout ça, oui, il y a les commotions aussi qui n'ont pas aidé dans tout ça. Là. Mais Non, moi, je pense que c'est une bonne chose que les joueurs réagissent enfin. Seule chose, par contre, c'est que je ne sais pas à quel point que je suis d'accord que ça soit ouvert au public. De dire, ce gars-là, il est parti en rehab. T'sais, il me semble que je garderais ça plus à l'interne. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense pas que les gens ont besoin de savoir que Samuel Girard s'en va prendre le programme d'aide aux joueurs parce qu'il y a des problèmes d'alcool. Je pense qu'en disant, ce n'est pas de nos affaires.
Mais ça ne sera pas dans l'alignement, fait que les gens vont poser des questions.
Oui, mais tu sais, écoute, ça fait des années qu'on se fait niaiser avec des absences à long terme pour une blessure haut du corps ou une blessure au bas du corps, je veux dire.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, que tu te fasses dire que le gars est blessé à un bras, tu sais. Honnêtement, je m'entorche aussi. Là. Je veux dire, il est blessé, ça ne changera pas si c'est le pied, c'est le bras, c'est la tête. Là.
Ouais,
mais tu sais, pour des problèmes comme ça, plus personnels, moi, je pense qu'on aurait pu garder ça plus à l'interne. Mais bon, ça, c'est. Puis, c'est, je ne parle pas juste pour le cas de Samuel Girard. Price aussi s'est sorti. Samuel Poulin aussi s'était sorti. Mais pour des dossiers comme ça, je pense que on aurait peut-être juste pu dire, garde, il y a des problèmes personnels à régler, il va revenir dans telle timeline, puis c'est tout.
Fait du sens.
Sinon, deuxième... ben, salut à Seb qui est dans le chat actuellement. La transparence,
effectivement. On fait ça. Donc, le dossier Trouba. Donc...
L'as-tu vu la séquence avec Nicolas Deslauriers?
Moi, j'en ai plein mon casque, là. 500$ pour voir Carlson un coup de poing, un coup de bâton, ça aide à Trent Frederick des Bruins de Boston. Moi, je trouve que c'est un joueur salaud. Je trouve que c'est un gars qui.
Moi, c'est là
que. Il joue la limite.
C'est là que j'ai
comme problème. Honnêtement, là, mon problème que j'ai, c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, il réponde aux attentes et qu'il va falloir qu'il réponde au code. Puis là, vous allez me faire chier que le code, ça me dérange pas. Mais il va falloir qu'à un moment donné, ça se règle cette affaire-là. Je pense que ce joueur-là est dangereux.
Mon arrogance, quand que Deslauriers va l'inviter à danser, il veut rien savoir, puis il va en geler un direct dans sa face. J'étais comme, waouh, mais quel genre, bon,
pour ouais, vrai. Et ça va finir mal, pour vrai, parce que ça va finir avec quelqu'un qui va juste péter sa coche. Et c'est le genre de choses qu'on n'enseigne pas à des jeunes. Et malheureusement, je pense que Trouba, sa fameuse petite tape sur les doigts à 5 000$ là, pour avoir donné un coup de bâton, ça aïeule à Trent Frederick, là. La Ligue nationale a une gang de caves. Et encore une fois, on priorise les vedettes. C'est un capitaine des Rangers. C'est un dossier tellement de marde. Et honnêtement, moi, ça me fâche de voir ça. Et la Ligue nationale passe pour des épais. Et malheureusement, c'est continuer. Mais un jour, ça va mal finir avec Trouba. Puis je vous le dis tout de suite, je ne souhaite pas de malheur à personne. Je ne souhaite pas de blessure à personne. Je ne souhaite pas non plus. On a plein d'affaires qui se passent depuis une couple de semaines. Là, la fille qui s'est faite blesser, qui est rendue paralysée au bas du corps. On a eu une morve là, une couple de semaines. Personne veut ça. Mais à un moment donné, il faut se répondre à tes actes. Puis honnêtement, ça va mal virer, moi, je pense. Puis je ne souhaite pas. J'espère que Trouba va faire ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de capitaines nationaux qui font la même job que lui, mais qu'à un moment donné, il faut se répondre à tes actes. Et j'ai trouvé bon Deslauriers, hein, je vous le dis tout de suite. Là, oui, je l'aime Deslauriers, là, mais j'ai trouvé très bon Deslauriers de ne pas juste dropper les gants pour y foutre une volée. Là. Donc, c'était mon point là-dessus.
Non, puis tu sais, moi, ce qui me gosse surtout, c'est que, comme on a dit, c'est pas la première fois qu'il va avec des gestes limites comme ça. Hein. C'est pas. Tu sais, Slavkovski, exemple, aurait fait ça, j'aurais trouvé ça aussi innocent. Mais tu sais, au moins, le gars n'a pas d'antécédent de gestes dangereux comme ça. Trouba, il arrache des têtes depuis qu'il est dans la LNH. Tu sais, oui, il y a des mises en échec qui sont légales là-dedans. Là. C'est pas toutes des pas légales. Mais quand même, tu le vois que il profite beaucoup quand que les joueurs ont la tête baissée pour sortir l'épaule. Puis là, cette fois-ci, ben, ça a été le coup de bâton directement au visage de Frederick. Non, à un moment donné, comme tu dis, il va frapper un mur, puis se rendu là, ça va être lui le pire, là, malheureusement.
Effectivement. Les autres sujets rapides, donc dossier Corey Perry, on a parlé, on ne sait pas trop ce qui se passe là-dessus, on a parlé dans le sujet numéro 1. Intéressant fait, mon cher, et je checkais ça, tu sais que j'aime les bagarres, donc je check ça quand même assez assidûment, même si je suis en Las Vegas ou à Punta Cana. Donc, après 20 rencontres, on a environ 19% plus de bagarres dans la Ligue nationale. Donc, fait intéressant. Moi, je trouve ça assez intéressant à voir. Est-ce que c'est parce que la NSL veut s'enrayer des Karens qui chialent depuis longtemps?
Des Karens!
Ouh! C'est parce qu'on va faire encore plus souffrir la LGMQ qui ont enlevé les bagarres cette année. Donc, petit peu ironique.
Petite parenthèse. Petite parenthèse. Ironique. Je parlais de la LGMQ. J'ai tellement ri, là. Parce que je ne sais plus c'est dans quel match. Je pense que c'est un match des remparts qu'à un moment donné, la foire était poignante, guillemets. Mais ça se vargeait, mais il y avait tous des gants. Genre, ça se vargeait, puis on ne voulait pas dropper les gants. Techniquement, c'est pas le bagarre. Hey, ça, on a l'air d'une belle gang de temps dessin. Puis tu sais, honnêtement, je ne dis pas ça pour les joueurs qui ont. Tu sais, je veux dire.
Règlement, c'est un règlement.
Quand ça brasse après le sifflet, je veux dire, tu varges, là, mais c'est de les voir tous avec leurs gants. Puis c'est juste pour dire que c'est pas une bagarre techniquement. Là. On a de l'air vraiment d'une gang.
Et j'en parle parce que vous savez que les Braves de Valleyfield jouent dans le Junior 3 de ce côté-ci. Puis il y a eu une mêlée générale. Donc mon gars assistait jeudi quand je suis revenu de l'aéroport à la game. Puis il m'a appelé, il m'a dit « Papa, les 10 joueurs ont droppé les gants sur la glace. » Donc, je dis ça, ça devait être le fun de finir la game à seulement 6 joueurs. Hein? Fait que, donc, c'est une petite claque sur la gueule au règlement de marde qu'on a encore fait au Québec. Puis moi, je pense que ça va juste recréer la frustration. Mais c'est un fait intéressant. Là. Puis tu sais, je fais juste dire qu'on dirait que cette année, puis ça va être dans mes questions plus tard, donc je vais en parler, mais on dirait qu'il y a une recrudescence de violence et de frustration dans la Ligue nationale. Et on voit ça avec des bagarres. Pour vrai, je souhaite pas qu'il y ait encore une année 80, 90 000 bagarres. Je pense que ça arrivera jamais à ça. Mais je trouve ça intéressant de voir que les joueurs ont décidé que cette année, on y allait au point. C'est rare qu'on voit ça. Sujet rapide, les Jets de Winnipeg. Quel changement de direction il y en a passé. Hein? Incroyable,
puis,
pareil.
Puis on disait même en début de saison qu'on était pas sûr, il y avait tellement de distractions, puis tout ça. Finalement, Scheifele signe, Ella Box signe.
Ouais.
Écoute,
donc, est-ce que du moins Wheeler était le problème?
Les Preds, là, mais sinon, je comprends quand même ton point. Là.
Ça va arriver, là. On est quand même cinquième dans la division de l'Ouest.
Oh, oui, pour vrai, c'est très surprenant.
12-5-2 plus 13. L'équipe se tient. Et ce que j'ai aimé cette semaine, je ne sais pas si vous le saviez, Rick Bowness a eu des problèmes avec la santé de sa conjointe. Un problème, je pense, avec sa moelle épinière. Donc, il a passé le dernier mois en dehors du banc. Et moi, j'en avais aucune idée avant aujourd'hui. Je vous dis tout de suite, je ne regardais pas ça. J'avais aucune idée. Puis, shame on me, je n'ai pas regardé Twitter pour ça. Donc, je n'avais pas cette nouvelle-là. Mais j'ai aimé voir cette semaine comment Craig Bowness est arrivé dans la chambre. Tous les joueurs l'ont dit salut comme un coach. A reçu la rondelle du match aussi, je pense, c'est jeudi. C'était très émotif dans la chambre des Jets, puis j'ai senti une nouvelle vibe, et je pense que c'est ça. Et ça fait vraiment penser, est-ce que Dubois et Wheeler étaient le problème? Puis je blâme pas les deux joueurs, on était peut-être fatigués du côté des deux joueurs-là, puis on voulait jouer ailleurs. C'est pas un marché facile.
Wheeler, ça fait un méchant bout qui est là, puis l'équipe gagnait pas tant que ça, puis à un moment donné...
Mais en ayant un capitaine comme Adam Laurie, je pense que ça fait une différence. Et bravo à Rick Bowness, bravo à cette équipe-là qui s'est revirée de bord cette année. Écoute, c'est un excellent départ, tant mieux, c'est le fun d'avoir une équipe canadienne qui fonctionne, ça fait du bien de voir ça, et bravo aux Jets, il fallait que je le souligne, c'est vraiment le fun d'avoir joué.
Non, puis tu sais, honnêtement, on regarde là, nos équipes canadiennes à date, t'sais, oui, il y a les Canucks là, qui devraient aussi, à moins d'une grosse catastrophe, faire les séries, mais encore une fois, cette année, on ne sera pas tant choyé là, pour les équipes canadiennes, peut-être Toronto, mais comme c'est parti là, Toronto, d'après moi, ils ne veilleront pas tard également cette année. Mon petit jab au Maple Leafs, quotidien.
Eh oui, c'est
pas quotidien, mais hebdomadaire. Mais si on peut avoir une autre équipe comme les Jets dans la série là, pour avoir le plus d'équipes canadiennes possible, parce qu'évidemment, Montréal, on oublie ça. Ottawa, je serais surpris. Calgary, je serais surpris. Toronto, d'après moi, s'ils font en première ronde, ça va être un bon soir, ils sont partis. Edmonton, au Palais, il va falloir que ça s'améliore plus que ça. C'est encore 2-1 à Anaheim ce soir. Là, donc,
c'est pas fini.
Mais c'est pas fini. C'est pas dans le sac. Mettons, c'est pas dans... Le tour n'est pas joué, on va dire. Ouais. Fait que si on peut avoir au moins, pas Anaheim, mais Winnipeg puis Vancouver en série, au moins.
On devrait avoir Toronto aussi, là. Mais c'est peut-être la porte en arrière, mais Toronto devrait faire partie des séries aussi.
Oui, Toronto, mais moi, je prends pour acquis de Toronto pour un round, c'est fini. Là.
Probablement, mais c'est correct qu'on est habitué. C'est le fun d'aimer Toronto, finalement. Mon frère doit être content, s'écoute le podcast. Sorry, Mike, Tampa Bay puis Toronto vont perdre en première ronde, donc shame on you. Deux petites nouvelles rapides. Sûrement que vous l'avez vu, Tyson Backer, personne ne connaît ça, tout le monde ne sait pas c'est qui. Je pense que cette année, on l'a découvert cette semaine. C'est lui qui a sauvé probablement la saison, peut-être même la carrière de Dennis Gilbert dans le combat avec Michael McCarron.
Oui, donc, une chance qu'il avait mis ça.
Le réflexe. Et honnêtement, on dit juste de la merde sur les arbitres habituellement. Mais bravo à Tyson Backer. Puis regardez la façon qu'il regarde le combat. C'est rare que j'ai vu un arbitre faire ça. Là. Puis honnêtement, j'en parle un petit peu, mais c'est rare. Puis, les arbitres sont loin puis attendent que les gars scramble un peu puis ça arrête. Mais il était proche de l'action et a vu qu'il pouvait avoir quelque chose qui se passait. Quand on a vu qu'on a perdu l'équilibre du côté de Dennis Gilbert, il a tout de suite mis la main. Écoute, bravo. C'est tout ce que j'ai à dire. Bravo. Écoute, ça a fait le tour des manchettes. T'as donné un gros thumbs up aux arbitres. Il faut pas oublier que cette job-là, c'est une job de merde. Oubliez-la pas. C'est une job que t'es faite pour te faire haïr. Si on n'en a pas, on n'a pas de ligue dans n'importe quel sport au monde. Donc, bravo à Tyson Baker. C'est tout un réflexe d'avoir sauvé probablement la carrière ou la saison de Dennis Gilbert parce qu'il tombait sur la tête sur un méchant.
Oh, il n'y avait rien qui arrêtait la tête. Là. C'était carré sur la glace. Là.
Yes. Oh, oui, exactement. Et dernière petite nouvelle, bravo au brave M13B qui est l'équipe de mon garçon. On finit deuxième dans leur tournoi la semaine passée. Donc, on perdu en finale contre Furnham et le M13A ce matin, cet après-midi.
C'est ce tournoi-là que tu me disais que le goaler n'avait pas accordé un but du tournoi, ouais. Puis il en a accordé juste un, puis ça a été le but du tournoi, malheureusement.
On a perdu, effectivement. Donc, Anthony, good job, Anto. Trois jeux blancs, puis on perd en finale 1-0 avec seulement un but dans le tournoi pour Anto. Donc, gros tournoi. Et là, le M13A, qui était l'équipe haute encore à Valleyfield, a gagné la finale tantôt à 5h. Donc, thumbs up, on n'en parle pas souvent de nos petits mineurs. Mais on connaît une bonne saison du côté de Valleyfield de notre côté. On a beaucoup de victoires dans nos équipes. Donc, c'est le fun de voir que le hockey remonte et qu'on continue à braver les choses vers le haut. Donc, c'était mes petites nouvelles rapides au niveau des sujets. Il me reste mon what the fuck, mon combat de la semaine, puis on passe réception. T'es-tu prêt?
Oui, vas-y.
What the fuck, c'est Bifuglian. Donc, Dustin Bifuglian qui revient chez les pros. Je sais pas si t'as vu ça passer.
Oh, pas Big Buff.
Big Buff revient chez les pros, mais cette fois-ci revient chez les pros pêcheurs.
Ah.
Donc, Bifuglian qui est rendu maintenant dans la ligue professionnelle de pêche.
C'est vrai que son nom, il est pas prononçable.
Bifuglian. Moi, j'aime ça dire comme ça. C'est à la bonne franquette. On dirait que je mange une bonne franquette avec ça. Donc. Une bonne flèche en pleine face. Donc, aucune victoire encore sur le tour en 6 ans. Donc, il faut quand même le dire, ça fait 6 ans qu'il fait ça. 2 top 10 et 2 championship qualifiers. Donc, le Buff qui continue à ramasser les déchets dans l'eau cette fois-ci et non sur la glace. Donc, bravo à Bifuglian, c'est un what the fuck. Et le combat de la semaine, Andreas Englund contre Sam Carrick. Et ça a été un bon combat quand même, ce petit combat-là. Donc, c'était difficile cette semaine, il n'y avait pas beaucoup de monde quand même qui se sont battus, mais le combat de la semaine, je le donne à eux autres. Bravo! Et comme je dis, on est en expansion au niveau des combats. C'est le fun, on lâche pas. Des hommes qui se tapent ça à gueule, en dehors qu'un ring en hexagonale, c'est parfait. Lâchez pas.
Et Connor McDavid vient de marquer un but, ouais!
C'est la fin, ils vont gagner leurs 53 prochains matchs. Mais non, c'est pas vrai. C'est bon parce que on remonte. Puis Hyman joue bien cette année encore. Drysdale a son point encore. Donc, let's go. Moi, je vote pour les Oilers. Let's go, les Oilers. Ils ont seulement trois tirs au but, 2 buts. Donc, on lâche pas.
Seb qui dit dans le chat, bof, il paye 500 livres, la chaloupe à calque.
Hey, c'est fantable, hein? Aïe, aïe. Ah non, il a pris. Il est comme moi. Pour le moment, il y a eu 3-4 enfants. C'est peut-être pour ça.
Peut-être.
C'est pas mal pour ça. Donc, t'es prêt pour réception?
Oui.
J'ai 4 questions assez intéressantes. J'ai travaillé fort là-dessus, pour vrai. J'ai pensé toute la semaine à des questions qui sortent un petit peu de l'ordinaire, puis on voulait voir où est-ce qu'on pensait ces affaires-là. Donc, je sais pas si t'as entendu les médias. Moi, j'ai entendu beaucoup parler aux États-Unis quand même. J'étais surpris de voir qu'à premièrement, à Golden Knights à Vegas, c'est incroyable. Il y en a partout. Tout le monde a des chandails. Tout le monde va au game. J'ai vraiment été surpris du hype des Golden Knights, excusez.
Ceux qui étaient champions de la Coupe Stanley, ça aide aussi.
Ouais, mais j'ai été surpris de voir qu'il y avait une fanbase aussi forte. Comme je disais, on a gagné la Coupe Stanley l'année passée, mais quand même, j'étais surpris. D'ailleurs, leur amphithéâtre est superbe. Mon hôtel était juste sur le bord de la fameuse, le fameux dôme qui illumine le soir là, avec l'œil puis le petit bonhomme puis tout. Là.
Le ballon de basket puis tout ça.
Ouais, on était à côté de ça. Dans ma chambre d'hôtel, j'étais direct devant, donc à même pas 100 mètres. C'est assez incroyable. Et juste une petite parenthèse au niveau du stadium de Las Vegas, les Raiders de Las Vegas. Aïe, aïe, c'est tout un stade. Donc, on fait les choses en grand. Et là, là on sait que la MLB s'en va l'année prochaine et on devrait avoir la MLS dans pas long. Donc, ça va être assez incroyable du côté de Vegas. Mais en tout cas, bref, j'en parle parce qu'aux États-Unis, on en parlait. ESPN en parlait aux États-Unis en même temps que les médias soient francophones ou anglophones ici. On a parlé dans l'affaire d'Elliot Freeman aussi. Qu'est-ce que tu penses de la comparaison de Quinton Byfield puis Juraj Slakovsky?
Ben écoute, c'est une comparaison qui est intéressante parce que c'est un peu aussi... Puis tu sais, on pourrait même glisser Alexis Lafrenière dans le lot parce que c'est un peu le même cheminement que ces trois-là ont eu dans le sens que, tu sais, Lafrenière puis Byfield, c'est les choix 1-2 là, du repêchage de 2020. Lafrenière, il est rendu à quoi, là? 22, 23 ans, là?
23.
On commence à voir sa position. Byfield, même chose. Ça a commencé un peu plus l'an dernier, Byfield, mais cette année, il connaît vraiment un bon début de saison. Puis lui aussi, il est rendu à 22, 23 ans. Puis tu sais, la grande question, est-ce qu'on dit que Slavkovski va devenir ces prochains-là? Non. Mais tu sais, on parlait beaucoup dans le passé, là, Tage Thompson, c'était la grosse comparaison qu'on faisait avec Slavkovski. Mais je pense que ces deux-là aussi. Tu sais, Tage Thompson, c'est parce que l'affaire que j'aime pas de cette comparaison-là, que c'est pas un choix premier au total ou top 5. T'sais, c'est un joueur qui est un peu apparu de nulle part. T'sais, des joueurs de même, Braden Point, c'est un autre aussi, là, que c'est un joueur qui peut progresser, qui a progressé puis qui a finalement, il a finalement réussi à trouver son épingle du jeu. Mais tu sais, du côté de Slavkovski, Byfield puis Lafrenière, ben, c'est des hauts choix. Lafrenière dans un marché qui n'est pas facile, lui des Rangers aussi. C'est pas, LA, c'est peut-être un petit peu plus smooth, mais New York, c'est pas vraiment un marché qui est très favorable envers les joueurs. Là, enfin, regardez les Yankees, comment ils se font sacrer des volets dans les manchettes là, à chaque fois qu'ils perdent une game. C'est pas un marché qui est facile à jouer. Fait que tu sais, je pense que oui, on peut faire cette comparaison-là au niveau de progression. Maintenant, qui a le plus de talent, qui est meilleur dans tout ça, là, c'est trop tôt. Moi, j'aime beaucoup le package de Byfield, ce que Slavkovski n'a pas encore, je trouve, dans le sens que, puis on en a parlé il y a quelques semaines, ou si c'est pas la semaine passée, je trouve que Slavkovski, on dirait qu'il est encore là, starstruck par la LNH. Là. On dirait qu'il est encore trop impressionné, il veut donner la rondelle à tout le monde. Il n'a pas d'autorité dans sa game, il veut tout le temps faire plaisir à tout le monde en passant la rondelle au lieu de tirer. Faut qu'il enlève ça de son sac, si on veut, de son compte à outils.
Tu le vois pas plus comme un Frédéric Anger à la place d'un scoreur?
Ben non, c'est plus un attaquant de puissance. T'sais, c'est pas un joueur qui va. C'est pas un Nick Suzuki. Il n'y a pas l'intelligence et le IQ d'un Nick Suzuki. Mais en même temps, c'est pas tant un sniper non plus. C'est pas un Caulfield. Mais tu sais, là où ce que je veux emmener, c'est que le nombre de fois qu'on a vu, puis le meilleur exemple, on en a parlé là, dans le podcast, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'autre d'avant, là, ouais. Où j'étais peut-être tout seul, par exemple, dans celui-là, mais tu te retrouves à un 2 contre 1, tu as la ligne de tir claire comme de l'eau de roche, tu as Caulfield qui est l'autre bord qui est surveillé par deux joueurs, puis tu as la passe à Caulfield.
Ouais.
Tu sais, tire la rondelle, au pire, tire en bas sa patte pour que Caulfield ait le retour, c'est le de base, là. Mais il ne fait pas, puis il est tout à bout de bras, puis il essaie de faire des passes, puis c'est ça. T'sais, quand ça, il va être capable d'avoir plus d'autorité dans sa game, on dirait que je parle comme Martin Saint-Louis, là, mettre sa game dans sa game, là. Mais qu'il ait plus d'autorité dans sa game, c'est là qu'on voit des résultats, selon moi. Puis tu sais, honnêtement, Slavkovski n'a pas mal joué dans le voyage dans l'Ouest américain. Il a quand même très bien fait aussi.
Ouais, bien fait.
Puis ça fait quelques matchs là, qu'il va...
Il va
quand même bien, c'est nécessairement récolter des points tout le temps, mais tu sais, c'est quand même pas si pire. Mais quand il va avoir plus d'autorité dans son jeu, c'est plus là qu'il est. Puis tu sais, Byfield, on le voit, lui, que quand il a la puck, là, il a la drive, puis il s'en va, puis il fait ses jeux, puis on a vu la passe que. On a tous vu la passe qu'il a faite là, en backdoor, à, je pense, c'est Fiala qui était tout seul de l'autre côté. Très belle passe. Ben, c'est cette confiance-là, puis ce swag-là, entre guillemets, là, qu'on ne voit pas présentement chez Slavkovski. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. T'sais, le gars a juste 19 ans. Là, je veux dire, à un moment donné, Byfield est rendu à 23, 20, 22, 23, puis on commence à le voir. Le point, c'est juste qu'il faut être patient dans ces cas-là. Puis souvent, c'est plus long aussi pour les gros bonhommes à se développer. Fait, moi, personnellement, je ne tire pas la serviette dans son cas.
Non, du tout.
Mais je pense que c'est une comparaison qui est intéressante, effectivement.
Je trouve que la comparaison est bonne, mais je trouve aussi que c'est le fun de voir qu'il y a une évolution de Slakowski aussi. Là. Donc, on évolue du côté de Slakowski. On n'est pas stagné comme un peu que l'Académie a fait à Montréal. On évolue à chaque game et je pense qu'on l'entoure quand même bien. T'sais, on a fait des mauvais coups du côté de Martin Saint-Louis, je pense, avec certains joueurs, certaines décisions, mais du côté de Slakowski, je pense qu'on fait bien du côté du Canadien.
Second question?
Second question. T'as vu la fameuse foire Marc-André Fleury et Gary Bettman?
Ah, ça aurait pu tellement être nos coups de pied, ça et tout, là.
Donc, ma question, puis la question, puis PJ Stock en a parlé aujourd'hui sur Twitter, puis j'avais pas l'idée, là. Lui, il disait qu'on devrait faire une journée, 32 équipes, tout le monde porte ce qu'ils veulent, comme bâton, chandail, peu importe les affaires. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi, t'es-tu en faveur ou non de laisser les joueurs porter l'équipement et les causes qu'ils veulent? Si on veut mettre le fameux ribbon, le pink ribbon, si on veut mettre des... Un peu comme la NFL fait avec les souliers, les gars mettent des chiens spéciaux, mettent des bracelets spéciaux. Est-ce qu'on n'est pas trop retardé du niveau national pour faire en sorte que si un gars comme Fleury, puis c'est pas parce que c'est Flower, là, ça pourrait être n'importe qui national, on l'a vu dans le début de saison avec le fameux tape pour les LGBTQ, est-ce qu'on peut pas laisser un peu plus de latitude aux joueurs? On veut pas faire de vagues avec le national, puis on se toujours on empêche pour pas faire de vagues, mais on en fait plus à cause de ça. Et moi, ma question, c'est, t'es-tu en faveur ou non de laisser les joueurs porter l'équipement qu'ils veulent?
Ben écoute, je vais te dire... T'sais, c'est pas nouveau, la LNH est très conservatrice, trop conservatrice. Je comprends le point, mais c'est parce que ça peut attirer beaucoup de on peut vraiment déraper avec ça, par contre. Si tu dis... Je suis d'accord qu'on donne...
La NFL a réussi à le faire. Juste point, avant que tu continues à parler, mais la NFL réussit à mettre un certain contrôle là-dessus. Pourquoi la LNH ne pourrait pas faire la même chose?
Mais t'as-tu vu les arbitres qui ont discuté avec Tyreek Hill?
Ouais.
Quand ils disaient, là, fais pas telle affaire sur le terrain, on veut pas voir
ça. Célébration, oui, c'est sûr. Oh, ouais. Je suis d'accord, on va pas trop loin. Mais s'il y a une règle puis un risque à faire, pas de problème. Je pense pas qu'il y a des joueurs qui vont exagérer non plus. Je pense juste qu'on veut s'exprimer du côté des joueurs nationaux. Je te laisse aller.
Ben c'est quoi je voulais dire? Ouais, tu sais, je suis d'accord qu'on donne une journée, comme tu as dit, qu'on peut honorer ce qu'on veut. Mais c'est sûr qu'il y a toujours la crainte d'exemple. Mettons, là, on va vraiment dans l'extrême, là, mais mettons, il y en a un qui veut supporter Donald Trump, exemple. Puis là, il arrive avec son casque, avec le sticker de Donald Trump. Ça ne regarde pas très, très bien, mettons. Tu sais, ça dépend toujours c'est quoi les. Il faudrait que quand même que ça soit relativement encadré un peu, dans le sens que. La LNH, mettons, exemple, en début de saison, là, il y a un meeting avec les joueurs, tu dis, bon, on vous donne une journée que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais voici les genres de causes que, tu sais, on vous pas qu'on vous recommande, mais qu'on, je ne vais pas dire autorisé non plus, mais tu sais, voici le bassin où vous pouvez aller. Exemple, supporter des nazis, peut-être pas une bonne idée.
Les personnes n'ont pas ça national.
Non, mais je te dis...
Et je pense pas que mon assez stupide pour le faire.
Non, mais je te dis, si on va dans l'extrême, ça, je te dis.
D'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi.
On va dans l'extrême, mais c'est parce que si tu laisses carte blanche, je te dis pas que ça va arriver à 100%, mais c'est pas impossible que des fois, on voit des trucs qu'on voudrait peut-être pas nécessairement voir. Mais l'idée est bonne de dire qu'une journée, vous pouvez encourager ce que vous voulez. Mais je pense que ça soit légèrement encadré pour éviter que justement...
Ben oui. Mais mettons que tu dis aux joueurs...
Des gens qui arrivent avec un chapeau du Ku Klux Klan.
Non, mais ça n'arrivera pas. Voyons, non, c'est des causes qui ne se font plus en 2023. Non, mais
Voyons, Steph, tu ne saisis pas l'ironie de ce que je dis.
Je sais, mais je veux dire, on est-tu capable de mettre une certaine... Au pire, juste des causes. Exemple, un, c'est le cancer du sein. L'autre, c'est pour les autochtones. Tu sais, là, je trouve ça quand même stupide qu'on empêche Marc-André Fleury de mettre un casque et c'est juste autochtone dessus. Là. Il n'y a rien de dégradant sur son casque. Là. On peut-tu arriver ailleurs, s'il vous plaît? Là? Donc, si les joueurs peuvent aider qu'une cause qui sont nobles pour eux autres, il n'y a personne qui va arriver qu'un sticker de Donald Trump ou de Biden. Là. On s'en calait aux États-Unis, ce qui se passe avec eux autres. Là. Comme il n'y a personne qui va arriver avec un 4K sur le chandail, là, ou sur Faut pas virer fou, mais mon
sais,
point
Steph,
est...
Je mon sais point que personne avec ça.
Non, je sais,
je
mais
sais.
Mon
je
point
vais,
est...
Je vais l'exemple à l'extrême.
C'est parfait, puis j'aime ça, parce que tu fais en sorte qu'on en discute, puis on en débat, mais j'aime pas le fait que la nationale, c'est la seule style ligue au monde qui t'autorise pas à rien. Tu sais, là, ça, une ligue avec un bas différent, il y a personne qui chiale avec LeBron James parce qu'il y a un bas avec Meryl Streep dessus, là, tu sais.
La LNH est toujours quatrième dans tout.
Ah ouais, mais cinquième, sixième, septième, non?
Est toujours quatrième dans tout, avec les quatre grands sports majeurs. Là.
Ouais.
Tout le temps en retard sur tout.
Eh, bah, boy.
Mais bon, écoute, tu sais, c'est comme les joueurs maintenant dans la NBA, qui c'est quasiment des PME à eux autres seuls. Ben, dans la LNH, ben, on en avait un qui essayait de faire ça, puis c'était Piqué Souban, puis c'était le mouton noir de la NHL. Là. Fait que, on est tellement trop conservateur dans cette ligue-là, puis je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on a peur d'avoir peur dans la LNH. Puis, tu sais, je comprends comme Steph, là, qui pas Steph, mais Sébastien qui dit dans le chat que c'est déjà arrivé là, aux States que justement, il y avait des joueurs qui supportaient Trump et Biden publiquement, puis ça. Puis ça, oui, c'est effectivement.
Ça va arriver. Non, ça va être la politique, ça va arriver. Là.
Mais tu sais, comme je dis, je pense que si tu fais un meeting en début de saison, puis tu dis, bon, voici où ce qu'on veut pas vous ailler nécessairement, mais voici ce qu'on veut. Où... Tu sais, ce qu'on. Pas qu'on veut voir parce que ça fait un peu control freak, mais voici ce qui est permis en fait. Puis au pire, allez pas dans ces eaux-là, mais pour le reste, faites ce que vous voulez.
100% d'accord. En passant, c'est 3-2 pour. 3-2 pour les Oilers.
Les
Huileux. Les gars, je
connais. David, il va faire un mec sans
nurse. 2 buts pour Nurse, t'as l'air, ça va bien.
Ça commence à rentabiliser 9,5 par année.
Ah oui, comment c'est le temps? 4 passes cette année, 4 passes en 20 games. All right, avec le nombre de batailles qui ont augmenté avec National, là, tu vas me dire, lâche-moi ta question de marde. Les mises en échec de plus en plus voyantes, j'ai parlé tantôt. Ça fait déjà pas mal de grosses mises en échec qu'on a cette année. Puis, tu sais, je parle de Trouba, mais il y a eu des grosses mises en échec cette année, là. Il y en a eu un autre sur Tanev aujourd'hui. Tanev est sorti, mon gars, là. Il y avait aucune idée, il était où sa patinoire. Pas pénalité sur le jeu. C'était une bonne mise en échec. Tu penses-tu que le fameux 5 000 $ ou la suspension de un ou deux matchs, on est vraiment rendu ailleurs? Puis ma question, c'est 5 000 $ pour avoir fait chier un joueur ou donner un coup de bâton ou faire donner du genou ou... Tu sais, des fois, là, c'est des... on regarde les suspensions et on se dit ah, 5 000 $, sérieux, là. Donc, ma question, c'est tu penses qu'on est rendu ailleurs? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que moi, j'ai l'impression, là, puis je vais vous le dire, là, j'ai l'impression que le gars qui veut blesser quelqu'un, là, un ou deux mains de suspension, il s'en fout, il va le faire. 5 000 $, il s'en fout, il va le faire. Chuba, là, il y a personne qui va lui dire t'as pas bien fait donner un coup de bâton à Trent Frederick pour 5 000 $. Il s'en fout, merde.
Bon, je regarde un petit peu. Jacob Trouba fait 8 millions par année cette année. Fait qu'un 5 000 $, je pense qu'il s'entorche royalement. Moi, j'ai l'impression que du côté des joueurs, tu sais, cette fameuse règle de 5 000 $-là, on dirait que ça a été fait genre il y a 30 ans et qu'on a juste oublié de l'upgrader avec les paramètres d'aujourd'hui. C'est ça l'impression que j'ai. Parce que je vais te dire comme toi, moi, 5 000 $, quand t'en gagnes 8 millions, là, c'est pas ce qui va me stresser de plus, mettons. C'est pas. Je vais être capable de bien dormir le soir, malheureusement. Fait que ça répond à ta question. Je pense que les joueurs s'entorchent un petit peu.
Ça répond à ma question, c'est surtout super. Je vais juste
amener le débat. Même le joueur qui fait 700 000 par année, là.
Non.
Oui, le 5 000 va faire peut-être un petit peu plus mal, mais je pense pas que ça va. Je pense pas qu'il va se prendre une hypothèque à cause de ça parce qu'il n'arrive plus. Là.
Non, effectivement. Et le dernier, et non le moins, de la question de l'heure à Montréal et depuis le début de la saison. Et c'est sa fille est de 4 à 2, mon cher. Ça a pogné le poteau solide. T'es le DG du Canadien. Maxime Hughes. Tu regardes ton alignement. T'as Allen, Montembeau puis Primo.
Mm-hmm.
Peu importe ce que tu fais, là, peu importe le salaire, les conséquences, lesquels tu prends à Montréal? Les deux.
C'est une excellente question.
Peu importe la contre.
Moi, je vais aller avec Primo puis Montembeau.
Oh! Puis je veux que dans le chat, vous répondez. Je veux que Max, il montre vos réponses. Je veux savoir qui vous prenez. Puis c'est une question sérieuse. On oublie les contrats. On oublie le plafond salarial. Oubliez que un gagne 1 million, l'autre 4,8 ou 3,5. Je m'en fous. Vous avez 3 gardiens de but. C'est le carrousel à Montréal depuis le début de la saison. On en a parlé tantôt dans nos points avec la connaissance de Montréal. Montembeau fait bien. Primo fait quand même bien pour qu'est-ce qu'il y a. Allen fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Du jour au lendemain, je vous demande qui vous prenez dans les 3 joueurs en faux 2.
Ben, Savanti est d'accord avec moi avec Primo Montembeau. Philippe Labrie aussi dans le chat qui mentionne Primo Montembeau. Moi, la raison pour laquelle je discarte Allen aussi rapidement, c'est simple. C'est que Allen, ce qu'on a présentement, c'est ce qu'on va avoir tout le temps. Il n'y aura pas de progression dans son cas, Jake Allen. Il
est rendu à quoi? Il est rendu.
On n'aura pas meilleur que ce qu'on a actuellement. Je préfère gambler sur Montembeau et Primo qui, eux, ça se peut qu'ils atteignent pas, ça se peut qu'ils ne progressent pas plus que ça, mais au moins, ils ont quand même, tu sais, sont encore jeunes. Là. Allen, il est rendu à quoi? Il est rendu une trentaine passée, Jake Allen, là, présentement.
33.
Il est rendu à 33, tu sais, je veux dire, il ne sera pas. ne sera pas un Cazzino Vézina à 35 ans. Là, oublie ça. Là. Il n'a jamais été numéro 1 à temps plein dans une équipe depuis le début de sa carrière. Fait que, c'est ce qu'on a présentement. Puis, je ne veux rien enlever. C'est un très bon vétéran. Il a l'air de très bien encadrer les jeunes comme Montembeau et Primo. Ça doit être vraiment un bon frère dans le vestiaire. Puis, c'est pas là le point. C'est juste que si tu me parles au niveau performance, je pense que Primo a... C'est sûr que le temps commence à... Je dirais pas à s'écouler dans son cas, mais tu sais, il a peut-être pas progressé qu'on l'aurait voulu depuis les dernières années, mais quand même, il est encore jeune, puis Montembeau, ben, il fait quand même le travail. Oui, il y a des soirs que c'est plus difficile, mais tu sais, contre les Ducks, il a solidement bien gaulé. Il a fait des gros arrêts.
Penses-tu que Montembeau peut être un jour statué comme un numéro un?
Ça, je pense que non, par exemple. Moi, je pense que du côté du Canadien, présentement, on n'a pas
encore... Il y a autant de gens qui pensent que oui, dans le fond.
Pourquoi? C'est parce que
moi, je pense que... Là, on sait que Montembeau veut gagner 4 millions, plus c'est un sujet 4.1, là, mais il veut gagner 4 millions par année, seulement 37 victoires nationales. Moi, je comprends le hype sur Montembeau, c'est un Québécois, passé par des choses difficiles, fait bien moyen avec la pression. Mais en quoi les gens peuvent voir Montembeau comme un numéro 1? Moi, je le comprends pas encore.
Je le comprends pas moi non plus, puis à 4 millions, je le signe pas. Pour vrai, si tu veux 4 millions, merci pour tes services, puis on passe au prochain appel, parce que, tu sais, c'est pas un ox sur Samuel Montembeau. Ça serait un excellent backup, selon moi, mais je pense pas que c'est un gardien qui peut être un numéro 1 à long terme. Là, dans une équipe en reconstruction, ça paraît bien, mais, tu sais, je regarde présentement le Canadien, ont pas encore leur gardien numéro 1 actuellement dans leur formation. Je pense pas qu'il est dans la Ligue américaine non plus, je pense pas que Dobusch, c'est un futur numéro 1 non plus. Il y en a un que je peux peut-être better dessus, puis il joue présentement dans la NCAA, c'est Jacob Fowler, qui fait très bien. Mais ça ne veut rien dire parce que Primo a très bien fait aussi dans la NCAA.
Ouais.
Dobusch a fait très bien dans la NCAA aussi. Puis présentement, Dobusch, je vais attendre encore un petit peu, mais présentement.
Il est pro aussi quand même, il faut laisser une chance.
Quand même très jeune. Mais tu sais, je ne pense pas qu'à long terme, ça peut être un gardien numéro 1 actuellement. Moi, j'aime beaucoup Fowler dans la NCAA. C'est peut-être lui là, que je... Puis encore là, je dis ça sur toute réserve. Je ne peux pas dire que c'est un tu sais, c'est quand même pas un espoir de premier plan non plus comme Jesper Wallstedt ou ben Askarov du côté des Preds ou Spencer Knight du côté des Panthers. Là, ça a mal vieilli parce qu'évidemment, lui aussi, on parlait tantôt de joueurs qui sont allés demander de l'aide là, dans le programme des joueurs. Ça en a un autre aussi. Mais c'était quand même un gardien qui avait un bel avenir devant lui. Puis je pense qu'il peut revenir aussi. Mais sinon, je pense que le Canadien a encore besoin de faire des recherches. Puis même si on a repêché 3 gardiens dans le dernier repêchage. Là,
il y a Fowler, le reste pas pire.
Fowler, moi, je pense que ce serait lui que je miserais le plus dessus. Ouais. Mais encore là, c'est pas un sure shot. En fait, il n'y a aucune sélection de gardien de but qui est un sure shot. Là, je veux dire, mais c'est lui que j'ai le plus d'espoir, ce serait lui.
Je pense que ça va être de plus en plus dur de repêcher des joueurs, des gardiens de but qui vont t'assurer une franchise. Je pense que cette année, c'est pas mal Vasilevski.
Hey, Tiff, il y a dans le chat qui a mentionné que lui, dans son cas, puis ça, c'est vrai, c'est un bon point, mais on voit ça beaucoup maintenant aujourd'hui. C'est plus vraiment le numéro 1 maintenant, c'est des 1A, 1B. On enlève beaucoup les matchs. Là. Oui, Vasilevski, c'est peut-être l'exception à la règle, mais tu regardes ce qu'il fait avec les Islanders, avec Varlamov, Sorokin. 4-2, les Oilers, je te dis, sont de retour, Edmonton.
Zakaiman, buddy.
Sont de retour. Comment Tiff a amené ça, c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il peut être un numéro 1A ou un B? Est-ce qu'on peut...
Oh, ça me passe avec Davis.
Focus, Stéphane, focus!
Excuse, t'as trop sorti comme ça. Excuse-moi, mais... Vas-y, je m'excuse.
Je vais tourner la question avec ce que Tiff a mentionné, parce que je pense que c'est intéressant aussi.
Oh, oui, vraiment.
Est-ce que Montembeau peut faire partie d'un tandem, d'un 1A, d'un 1B? Est-ce que, exemple, on fait une hypothèse. Mettons que Fowler, c'est de shit, là, puis c'est le gardien numéro 1. Est-ce qu'on est à l'aise à séparer, mettons, à la limite, je sais pas moi, 42-40 ou mettons 45-37, peu importe, puis que Montembeau ait une grosse charge de travail comme ça, est-ce qu'on serait confortable à avoir un Montembeau qui goal une 35-40 games par saison?
Moi, je pense que si Montembeau devient ton 1 gardien numéro 1, A ou B, ça va être un B. Je pense qu'il va falloir un gardien plus fort que lui au 1A qui va faire un 45 game, puis Montembeau va en faire 35-36. Puis ce que Tiff dit, c'est le bon point. Moi, ce que je trouve bizarre, si je suis un DG national, si je suis un agent de joueur, je veux que mon gardien de but soit le mieux payé. Si je suis puis impossible qu'on paye des gars encore 7-8 millions là, si on a des 1A, 1B. Là. Donc, est-ce que toute la nationale va devenir une ligue où est-ce qu'on va payer deux gardiens de but pour 10 millions, 5 millions chaque? Donc, moi, je trouvais ça intéressant où est-ce qu'on s'en va au niveau du gardien de but. Je trouve ça intéressant de voir qu'on est prêt à adopter le 1A, 1B, alors qu'on n'a jamais fait ça dans les 90 dernières années.
Puis c'est, ça m'a dit mentionner, parce que je te coupé, mais un autre très bon exemple, les Brooms. Swayman, Guillaume Marc, ça c'est un
solide. Mais on va en perdre, là.
T'envoies n'importe quel un des deux, puis tu sais que tu auras un bon départ ou presque. Tu sais que ça
va bien
contre les Rangers en fin de semaine, mais tu sais, normalement, tu sais que tu auras un bon départ de ton gardien, peu importe qui t'envoie.
Je suis pas d'accord avec toi, mais tu es d'accord ce que Swayman, Marc ou Swayman va passer l'année prochaine? Là. Impossible qu'ils vont payer 8 millions chaque les deux. Là.
Ben, ça, c'est un autre débat qu'on peut avoir, parce qu'à un moment donné, si.
C'est ça mon problème. Si tu as deux bons gardiens de but, ils vont demander la cagnotte, les deux. Il n'y a personne qui va dire « Ah non! Ah, moi, je veux jouer ici, je vais prendre 5 millions, puis l'autre 4,8. » Non, impossible. Impossible.
Parce que tu sais, tu regardes dans le passé ce qui s'est fait, en payant les gardiens chèrement, ça n'avantage pas le club à long terme. T'sais, tu regardes le Canadien avec Carey Price, le contrat à 10,5 a fait mal parce que ça empêchait d'ajouter d'autres pièces pour aider l'attaque et aider la défensive. Avec les Panthers, Bobrovsky, tu sais, oui, il y a eu des grosses séries l'année dernière, mais en saison régulière, c'était pas tout le temps facile. Puis c'est une autre équipe, les Panthers, qui aurait pu ajouter plus en avant, puis on n'a pas été capable de le faire parce qu'on avait un gardien à 10,5 millions. Tu sais, j'ai l'impression que les équipes, plus que ça va avancer, plus qu'on va justement essayer de trouver. Parce que tu sais, on l'a vu dans le passé, tu n'as pas besoin d'avoir un gardien d'élite nécessairement pour gagner la Coupe. Tu en as juste besoin d'un qui arrête les pucks quand c'est le temps. Là. Tu sais, je te rappelle que on remonte très loin. Là. Je sais qu'il y a d'autres exemples aussi pour contrer ça. Mais je te rappelle qu'en 2013, la finale, c'était Michael fucking Layton contre NT Niemi.
Ouais.
On n'a pas de Vezina là-dedans. Là.
Non.
Puis on s'est rendu quand même en Coupe Stanley pour à la finale de la Coupe pour les deux équipes. Fait que, ça te prend juste un gardien qui va faire les arrêts au bon moment, qui a une bonne défensive en avant pour patcher et essayer de réduire les chances de marquer de qualité. Après ça, je veux dire, c'est une bonne équipe en avant, c'est une bonne attaque aussi, ben, tu sais, tu vas avoir des chances, là. Tu sais, je pense pas que tu as besoin d'avoir nécessairement un Vasilevski tout le temps, là. Si ton équipe est mieux bâtie, peut-être plus au niveau de la ligne bleue puis à l'attaque, puis tu as un gardien qui est correct, sans dire que c'est un Dustin Tokarski ou whatever, là, je sors des noms des Boulamites, là, mais que ce soit un gardien qui fait la job, là.
Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis c'est ce que j'ai hâte de voir dans les prochaines années. Je suis intrigué de voir comment ça va aller, mais j'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va aller avec les gardiens de but.
Puis tu sais, c'est parce qu'aussi, l'affaire, c'est que, puis je vais terminer avec ça, l'avantage d'un tandem comme ça, avec, mettons, les Bruins, avec Hallmark et Swayman, c'est que si en série, t'en as un qui se blesse, t'es pas dans le chenoute, parce que t'en as un autre qui va faire le travail. Tu sais, tu t'appelles le Lightning à Tampa Bay, Vasilevski se blesse. Vas-tu envoyer tes deux, c'est qui les deux gardiens qui sont là présentement, là, avant que Vasilevski revienne? Là. Vas-tu envoyer un de ces deux-là, puis tu vas être confortable? Pas tant sûr, moi.
Pas tant sûr, mais en même temps, ça va être difficile de voir comment l'équipe va pouvoir avoir la chance d'avoir un tandem aussi puissant. Là. Il n'y a pas beaucoup qui vont le faire. Là.
Ouais, c'est parce que là, tu sais, les Bruins, c'est comme la, entre guillemets, la perfection parce que tu as deux gardiens qui sont vraiment solides. Mais les Islanders, ça fait plusieurs saisons que c'est sur Sorokin, Varlamov, les deux gardiens. Varlamov a signé, ça n'a pas l'air de déranger plus qu'il faut.
Non, c'est sûr, mais on n'a juste pas d'attaque devant eux autres. Ça s'en
non, mais, oui, ça je comprends, mais je veux dire, je pense qu'il est possible d'avoir un tandem. Là, c'est juste que là, on prend les Bruins comme exemple. Mais
là, tu mets ton Bruins à l'Islanders.
Le gros exemple. Mais tu sais, Seb nous amène un autre point aussi dans le chat. Hill et Thompson à Vegas, ce sont les deux autres aussi qui font le travail.
Ouais, tu penses-tu? C'est pas mal Hill qui fait la job, là?
Ben, Thompson n'est pas mauvais non plus.
Y a-t-il une coupe de game de jeu cette année? Je sais pas, je suis pas là. Je leur sors de blue. Là.
Oui, il me semble que Gaulé une couple de fois cette année.
Je peux aller voir, là. Je vais aller voir que les Golden Knights, ça me stresse pas, là. D'après moi, oui, mais je veux dire, ça reste que. Tu sais, on a nommé trois peut-être, là. Ça fait pas grand-chose non plus, là. Tu comprends?
Thompson, il est 5-3-1, 9-22 de pourcentage d'efficacité, puis 2-32 de moyenne de balloué. Fait que ça, c'est très bon, là.
Ouais, puis on est 9-2. Fait que 12 matchs, l'autre 9 matchs. Très bon. Félicitations, oui. C'est parfait, mais j'ai hâte de voir. comment d'équipes vont réussir à avoir un tandem qui a du sens. Ça serait bon de faire l'exercice peut-être la semaine prochaine. Comment dans les, dans notre équipe nationale qui ont un tandem qui a du sens. Ça serait, ça pourrait être un bon point à amener.
Ben, tu sais, si tu regardes vite, là. Boston, Islanders, Vegas. Ça veut dire qu'ils mentionnent Vanecek et Schmidt, mais
non,
ils ont pas tant des bonnes stats que ça, me semble, cette année, les goalers des Devils.
Non, c'est pas possible.
Les Rangers ont un bon aussi avec Quick et Shesterkin.
Ouais, Quick est juste en... Non, Quick, il joue là sur sa tête présentement. Là.
Bon, 6-0-1, mais là. Regardez qu'il a fait ses preuves aussi.
Là. Ah, je suis d'accord avec toi, là. Il a
littéralement arraché la Coupe cette année en 2012 aux Kings. Là.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
C'est sûr qu'il est plus dans son prime, ça, je suis d'accord avec toi, mais c'était quand même un sacré bon vétéran à avoir avec Shesterkin. Sinon, tu regardes. Tu sais, Colorado, c'est un bon tandem.
Hurricanes, non.
Non.
Jackets, non. Les Rangers, c'est analysé. Fait dans le fond, dans la conférence de la métropolitaine, de Devils, Islanders, Rangers, Devils, je le compte pas. Flyers, non. Penguins encore moins. Capitals encore moins. Les Bruins en est un.
Tu ris, mais Charlie Lindgren est vraiment solide.
Ouais, il est clutch. Là. Lui, c'est un gars qui est late bloomer en estifi à 32 ans, je vais te dire franchement. Ça, là-dessus, je suis vraiment d'accord avec toi. Pourtant, il y a une équipe de jambon devant lui. Là. Puis je vais dire, encore une fois, les Capitals sont fucking jambon. Bruins, on l'a dit, les Sabres?
Non, les Sabres, non.
Red Wings?
Non.
C'est mon équipe, puis je te dis non. Panthers?
C'est tellement dur à dire les Panthers parce qu'autant que Bobrovsky est capable du meilleur comme du pire, fait que. Mais je vais dire non, parce que le deuxième gardien, c'est qui? C'est genre Alex Lyon, genre je sais plus c'est qui leur deuxième gardien.
Ouais.
Non, je dirais pas que c'est un bon tandem.
Exact. Donc, Canadien, on a dit, sénateur non plus.
Non.
Le Lightning, je pense pas que Gustafsson est. Non,
c'est Vasilevski et on a vu que pour Vasilevski.
That's it. Donc, on lui a donné un petit break pour le reste de l'année. On va se rendre dans les séries, ça va bien. Les Leafs, non plus.
Là, à date, on a dit New York, on a dit Boston, on va les mettre là-dedans.
Islanders, Rangers, les deux équipes de New York.
Boston. Puis c'est pas mal ça.
Après ça, on est rendu aux Leafs, non. C'est pas que Samsonov et Will, c'est pas loin. Les Coyotes, non plus.
Non.
Les Blackhawks, non.
Vegas, on peut mettre dans le lot.
Ouais, Avalanche, pas prêt à dire ça non plus.
Non.
Les Stars. C'est juste pas Tiger, c'est un gamin. C'est qui le deuxième gardien avec les Stars?
Wedgwood est pas mauvais cette année, il me semble.
C'est Wedgwood qui est avec lui? C'est sûr que c'est Wedgwood avec les autres? Ouais, c'est Wedgwood. 916-302, 4 victoires, 1 défaite. Mais il a joué 5 games, l'autre 14. On sentait que le goal numéro 1
là-bas. C'est pas un tandem rendu là. C'est pas.
Exact.
C'est vrai, faut qu'on garde aussi les départs, par exemple. Parce que c'est comme les Rangers. Comme les Rangers, je suis pas mal sûr que Shesterkin en a pas mal plus que.
Je pense que Quick est à 8 départs. Je vais juste aller voir, juste pour être sûr. Je suis quand même Quick qui m'a souri dans cette farce. 8 départs pour Quick. 8 départs pour Quick, 6 victoires, aucune défaite, une en prolongation. Donc, je suis 11 games.
Ouais, on pourrait dire que c'est un tandem. Il y a juste
c'est un tandem. Mais lui, demain, qui était sous une victoire là-bas. Après ça, on a le Wild, non.
Non.
Les Prédateurs, non.
C'est qui le deuxième gardien?
Je vais dire ça tout de suite.
Saros, c'est le premier.
Je vais dire ça tout de suite. Saros, c'est le premier.
Lankinen.
Ouais, Lankinen.
Okay.
Lankinen, il y a juste 5 games de jeu l'autre 15. Ah. Fait que ça calcule pas.
Saros, pour moi, le numéro 1 contesté. Ouais.
Les Blues, c'est Bennington.
Puis deuxième, je pense que c'est Joel Over.
Joel Over, le deuxième, effectivement. Donc, tu sais, c'est pas, pas grand-chose. Du côté des Jets. C'est pas mal l'équipe. C'est pas mal l'équipe à l'époque, là. On va se le dire. Laurent Brossois joue seulement 4 départs cette année. Du côté d'Offer, il y a 8 départs. Bennington en a 15. Donc, ça compte pas non plus. Les Ducks non plus. Les Flames non plus. Les Oilers, les 4 sont mauvais. Ça sert à rien. Excuse-moi, les 3 avec Pickard. Les Kings. C'est qui est deuxième gardien de but que les Kings déjà? C'est-tu.
Phoenix Copley.
Talbot Copley. Bon, 14, l'autre. C'est vraiment Talbot qui marche cette année. Les Sharks, on oublie ça. Le Kraken, encore une fois,
c'est un tandem, mais c'est pas un bon tandem.
Les Vancouver, les Canucks, c'est encore l'équipe de Demko cette année. Je pense pas que Guido Smith. Ah, quand même 8 départs, mais il n'y a pas des bonnes stats. puis après ça, des Golden Knights. Ben, pas tant que ça. 902, 3.28, je pense, d'efficacité.
Ah, c'est la plus bas que ça.
Ouais, 4 victoires, 2 défaites. 4 victoires, 2 défaites, 306, 907. Parce que Demko est 10-5, 2-18, 9-25. Pour ça, on a Vegas. Finalement, on a 4 équipes.
Ouais, fait que c'est pas.
C'est ça, je te disais tantôt. C'est tough d'avoir deux gardiens de but. Là. Puis, tu sais, dans toutes les équipes qu'on a nommées, là, on a dit comment de fois ah, ça, sinon, ça, c'est l'équipe de tel gars. Ça, c'est l'équipe de tel gars. Tu sais, Altager, c'est l'équipe après ça de Vasilevski. C'est l'équipe après ça de. Tu sais, c'est ça, je te dis, c'est tough d'avoir deux gardiens, un tandem qui va être puissant comme les Bruins. En même temps, ça t'apporte pas la Coupe Stanley. Là. L'année passée, OK, Golden Knights, Thompson t'es blessé. C'est vraiment Adonil qui a fait de la job. Mais ça reste que c'est tough d'avoir un tandem de bons gardiens de but qui vont demander un petit peu moins d'argent pour rester ensemble. L'expérience, je trouve ça cool qu'on l'a fait là à soir, mais c'est tough à faire comme. En tout cas, moi, je trouve que ça va être difficile pour les prochaines années de faire ce genre de choses-là.
Non, puis tu sais, mais en même temps, puis tu sais, je veux pas cracher sur les gardiens de but parce que c'est une position qui est vraiment pas facile à jouer, là, on s'entend.
Non, vraiment pas. Non.
Mais on dirait que j'ai l'impression que c'est un peu la. Puis ça, c'est un peu ironique que je dise ça parce que les Oilers, ils ont tellement de difficultés à en trouver un. Mais tu sais, on dirait que c'est peut-être la position la plus facile à remplacer dans le sens que un bon centre numéro un, c'est vraiment dur à trouver. Un très bon défenseur droitier, c'est très dur à trouver. Un gardien de but. Si on vient d'avoir l'exemple, tu as Thompson qui est blessé, tu ramasses un Adonil, puis whoop, tu fais le travail. Tu n'as pas besoin de trouver un gardien d'élite. Tu sais, c'est pas pour rien que les gardiens qui sont repêchés première ronde, il n'y en a plus tant que ça. On ne veut plus investir là-dedans avec un choix de première ronde.
Tu vois ça, pour vrai. Parce que moi, je m'en rends dire que les gardiens de but, c'est plus difficile parce que tu as beaucoup moins de gardiens de but par équipe dans peu importe l'équipe que tu joues en mineur ou dans le majeur.
Oui, mais tu sais, as-tu remarqué que... Oui, tu as des Wallstedt qui vont sortir, tu as des Askarov qui sont en première ronde, mais les équipes ne veulent plus prendre un choix de première ronde pour repêcher un gardien parce qu'ils préfèrent l'utiliser pour combler une position qui est encore plus tough, genre un centre numéro 1, un bon défenseur droitier numéro, qui peut être numéro 1, numéro 2. Mais un gardien, tu vas en repêcher 3 à 4 là, entre les rondes 3 à 6, puis à un moment donné, tu vas en pogner un qui va faire la job. Là.
Effectivement. Moi, je suis d'accord avec toi.
En tout cas, c'est intéressant. Puis c'est Seb qui dit dans le chat que Grubauer est quand même fort. Il est au-dessus de 3 buts alloués par match, puis même pas 900 d'efficacité cette année. Fait que Grubauer, là, il peut aller se coucher. Puis...
Avec le Kraken, ça? Ouais.
Avec le Kraken, oui. Puis le deuxième, c'est Joey Dacard.
Ouais, le Kraken a pris une grosse année versus l'année passée. Ils sont pas en danger.
Je crois qu'il était bon à sa première saison avec le Kraken, mais après ça...
Ça va être difficile. C'est le côté Pacifique, là, je pense que les 4 grosses équipes, ou les 3 grosses équipes sont déjà passées en avant, là, et loin. Là, fait que...
Ben écoute, Steph, on va terminer rapidement avec notre match à surveiller. Il fait 1h30 qu'on jase. Écoute, on a débordé à soir au plaisir de moi et toi. C'est
tellement le fun.
J'imagine. Ben c'est cool, par exemple, faire cet exercice-là parce que ça remet un peu les pendules à l'heure.
Ouais.
Écoute, avais-tu ton match à surveiller ou si tu veux que j'aille avec le mien?
Vas-y, des coups, je te vole le tien encore là, pour la 19e fois en 2 ans.
Ben écoute, il faut juste que je retrouve. C'est pas un match qui. Qui implique 2 grosses équipes là, au sommet puis tout ça. Mais c'est un match qui risque d'être offensif. Puis moi, j'aime ça. Toi, t'aimes ça les matchs que ça se tape sur la gueule. Moi, j'aime les matchs que ça marque
des. Ouais, c'est beau.
Mais en fin de semaine, j'ai été gâté là, des 7 à 4, des 8 à 2. Écoute, je capotais. Mais moi, j'aime beaucoup, surtout si en plus les Oilers sont vraiment de retour pour de vrai avec leur grosse performance contre les Ducks ce soir.
Oh non.
Mercredi ou jeudi? Prochain, c'est le 30, c'est quand? C'est jeudi.
Oilers contre Jets pour de vrai.
Yes, un beau petit duel 100% canadien avec 2 équipes qui sont capables de marquer des buts. Le premier trio des Jets qui est en feu cette année, Connor Shifley.
C'était vraiment ma game aussi. Je pensais jamais que tu prendrais les Oilers.
Bon, ben, Steph, j'ai le regret de t'annoncer.
Hey, c'est rare, c'est tout qui me la manche à la boîte. Mais c'est carré que je vais me reprendre avec une game demain de bord.
Vas-y.
Colorado contre Tampa Bay demain. Let's go.
Ouais, ça aussi, ça devrait être bon. Un beau rematch de la finale d'il y a 2 ans.
Je me suis marqué 2
avec games. Avec Vasilevski de retour, Steph.
Ouais, parle-moi en pas. C'est correct. Je pense que la prochaine question la prochaine semaine, c'est quel joueur du Lightning Tampa Bay va se blesser pour le reste de la saison pour pouvoir aller rechercher un autre joueur de 10 millions pour rien?
Mais j'allais te poser une question, mais je vais me la garder pour cette réception la semaine prochaine. Bon, on est déjà à 1h30 puis que c'est quand même une très bonne question. Fait que je veux, on risque d'en débattre un peu.
Marque-la quelque part. Je veux que tu m'en poses ces questions.
Je vais
t'es ici. Ouais, mon gaucher préféré.
Ouais, juste défaut là d'être gaucher.
C'est pas un défaut là. Au golf, oui, mais pas au hockey.
Oh, ben là, je suis gaucher au golf aussi, maudit.
C'est ça que je te dis.
Écoute, Steph, c'est ce qui va mettre fin au podcast. 1h30 de beau podcast. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. On s'excuse d'avoir débordé autant, mais je pense que le sujet était très intéressant avec les tandems de gardien de but et tout ça. Donc, on voulait pas attendre à la semaine prochaine pour en discuter. Encore une fois, la poutine habituelle, allez suivre notre YouTube, là, Hockey sur demande. Suivez-nous sur Apple Podcast, sur Spotify aussi, on est là. Si vous n'êtes pas aussi sur la page de la source du hockey, également sur Facebook, allez voir ça, on publie des articles également, en plus de faire les podcasts. Et d'ailleurs, demain, mardi, le podcast de la Ligue nord-américaine, qui va avoir lieu à 9h30, je crois, en train de vérifier, mais l'invité, c'est Simon-Claude Blackburn, si je ne me trompe pas, des Marquis de Jonquière. Ça, c'est à 8h. Donc, Simon-Claude Blackburn qui va être là avec Seb et Dave. Donc, allez voir ça si vous voulez. Tout à des bonnes anecdotes au niveau hockey, des joueurs, les parcours et tout, tout intéressant à entendre. Donc, allez voir ça. Ben, sinon, évidemment, s'il y a des gens là, qui vous demandent, hey, vous autres, là, quand vous écoutez des podcasts de hockey, c'est quoi vous écoutez? Ben, si vous voulez nous faire la recommandation, ça serait apprécié. On a toujours les mêmes qui reviennent à chaque semaine, mais on est tellement reconnaissants. Mais si on peut agrandir également cette communauté-là un petit peu, ça serait également très, 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 très cool. Donc, si vous voulez nous recommander à tout votre entourage, eh bien, on serait très heureux de ça. Steph, encore une fois, merci de ta collaboration. Merci au Ménion en arrière qui est toujours là, fidèle au poste, de l'autre côté, voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de Hockey sur demande et surtout la grosse question que je veux poser à Steph là, pour ce récepteur.
En décembre, man. En décembre, prêt pour Noël, les boys. Let's go.
C'est dans un mois de Noël, donc...
Ça se peut qu'il y ait un petit bonnet de...
T'as pas le choix. Ou soit ça, tu l'entoures de lumière de Noël.
On pourrait faire avec la barbe dans deux semaines, puis après ça, on va faire une affaire avec le petit bonhomme en arrière. Let's go.
C'est plate, hein, parce que pour les gens qui écoutent ça dans leur char ou peu importe dans leurs écouteurs, ils se disent mais de quoi qu'ils parlent?
Un peu nous autres quand on écoute notre podcast en allant travailler, on n'a aucune idée de quoi on voit, mais on entend au moins. C'est l'important si vous entendez ce qu'on dit.
C'est bon, l'important, effectivement. Exact. Sinon, vous levez juste un peu le volume, normalement, ça règle le problème.
Ouais, puis ça enlève les bruits de char aussi, vous allez vous donner un gros garage.
Et voilà, donc ça ne ment pas. Bon, écoute, Steph. Merci encore une fois. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, là, qui nous ont également commenté dans le chat. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du podcast d'Hockey sur demande. Et en attendant, bien, portez-vous bien et on se retrouve dans 7 petits dodos.
À la semaine prochaine. Salut, mon Max.
Salut, tout le monde.